Bonjour et bienvenue au One Eye Daily Club, le podcast qui déchire sa race.
Pas mal, ouais. Je vois que tu nous écoutes.
Je sais pas si j'écoute. Il faudrait que j'écoute avec plus d'attention, mais je sais pas. L'interlocuteur est sympathique. On est dans un cadre où il fait assez beau, donc c'est détendu.
Oui, donc nous sommes à Bulles en Seine, à la Seine-sur-Mer, un joli petit festival, et je reçois donc aujourd'hui Fabrice Sapolsky, qui est journaliste, scénariste, éditeur.
Oui.
Et puis en ce moment,
En
ce moment, surtout éditeur, je pense.
Et surtout scénariste. Non, ouais, les deux.
Parce que bon, tu lances un nouveau label qui s'appelle Atlantique BD. Atlantique BD. Alors, moi, j'ai découvert ton nom la première fois en lisant le numéro 1 de Comic Box.
Oui.
C'était il y a déjà.
C'est donc que tu as raté le numéro 0 comme beaucoup. Non mais c'est normal.
Provincial.
Non, c'est pas provincial, c'est que à l'époque où on a fait le numéro 0, il n'était pas du tout destiné à la vente ni à être découvert. On l'a révélé plus tard parce que on nous a dit vous avez pas fait un numéro 0, dans l'industrie de la BD, les rumeurs ça va très très vite, et donc la rumeur du numéro 0 s'était propagée parce qu'on l'avait envoyé à quelques boutiques. Et donc on a fini par nous le réclamer, on a sorti ce qu'on avait en stock, donc voilà, donc les numéros 0 sont arrivés, mais c'est vrai, c'est normal que tu aies découvert au numéro 1.
J'étais sur Corté à l'époque, donc autant te dire que le numéro 0, pour qu'il arrive jusqu'à moi, déjà pour le trouver le numéro 1, c'était pas évident.
Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu te souviens de la date de sortie exacte du premier Comic Box ?
Non.
Là, tu vois, c'est moi qui pose les questions.
Ouais, non, je m'en souviens pas, je sais que c'était en 98 parce que
c'est le 10 juillet 1998, le jour de la Coupe du Monde.
Oh, oui, pas mal, effectivement. Eh ben, je crois que j'étais plus intéressé par cette sortie-là. non, ça fait facile à se souvenir, ça aide.
Ouais.
Alors, j'ai vu que toi, t'as un diplôme d'histoire à la base, t'es devenu maquettiste par la suite.
J'ai un diplôme, ouais, d'histoire contemporaine. J'ai une maîtrise d'histoire contemporaine sur l'histoire de l'Amérique du Nord. Et je suis un très, très mauvais historien. je me suis beaucoup ennuyé.
Ouais.
J'avais quand j'ai fait ma maîtrise, j'avais un directeur de mémoire que je salue, qui était vraiment vraiment exceptionnel. Mais cela dit, il a pas vraiment su me donner la fibre historique, et je me voyais pas terminer professeur d'histoire ou à écrire des bouquins sur l'histoire. Et j'ai longtemps pas compris pourquoi j'avais fait ces études. Et maintenant que je suis scénariste, j'ai compris, parce que maintenant ça me sert.
D'accord.
Mais pendant longtemps, ça m'a pas servi. Et forcément, voilà. Donc oui, j'ai fait des études d'histoire, mais quand j'ai eu 21 ans, donc j'étais déjà très âgé, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie. J'avais fait un stage dans une maison d'édition scolaire qui s'appelait Bréal, qui a fait des bouquins. Tous les gens qui ont fait des prépas à un moment se souviennent de Bréal. Et là-bas, j'ai découvert le Macintosh. Et le Mac a changé ma vie.
Oui, parce que 98, c'était pas encore super.
Ah non, là on était en 1991.
91, oula, oui, on en était.
Donc
dans un état...
on était en 1991, et là ça a été le déclic. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu t'ennuies à essayer de faire quelque chose qui soit universitaire ? C'est l'artistique qui t'intéresse. Puis comme j'avais pas. J'ai comme tout le monde eu la tentation en tant que lecteur de BD de gratter quelque chose comme dessinateur. Puis quand j'ai eu 17-18 ans, je me suis rendu compte que j'avais ni le talent. Ou alors, non, c'est pas que j'avais pas le talent, c'est que j'avais peut-être le talent, mais le niveau d'exigence et de travail qu'il me faudrait pour arriver à un niveau correct, non pas un bon niveau, mais un niveau correct, était tellement énorme que j'étais pas prêt à le faire.
Ouais.
Donc le principe de réalité a fait que j'ai décidé de m'orienter vers autre chose, et ça a été la création graphique, et c'était les débuts de la publication, c'était par ordinateur, la PAO. Donc voilà, et le Mac est arrivé vraiment là. J'ai découvert Express à l'époque, Photoshop, Illustrator, qui étaient dans des versions qu'on peut considérer comme primaire aujourd'hui, parce que oui. Pour les plus jeunes, voilà, Photoshop aujourd'hui, CS5, etc. Moi, j'ai connu Photoshop 1.5, hein, donc c'était il y a très très longtemps. Et voilà. Et
surtout
donc,
faut pas oublier qu'avant le CS5, il y a eu un CS1, et donc ils avaient recommencé la numérotation.
Ah, ils avaient recommencé la numérotation. Non, parce que si tu regardes vraiment, alors je fais une parenthèse, ouais. Ça n'a rien à voir avec la BD, mais si tu regardes vraiment sur dans les préférences de Photoshop, il te dit que c'est la version 12 et quelques. Donc ils ont en fait la double numérotation. C'est comme la BD. Donc j'ai appelé les écoles, des écoles qui formaient au métier de maquettiste PAO, et on m'a dit, je me suis fait jeter de partout en fait. Je me suis fait jeter de partout. On m'a dit soit vous êtes trop vieux. J'avais 21 ans quand même. Hein.
Ah ouais.
Vous êtes trop vieux ou vous êtes trop diplômé, parce que comme j'avais une licence d'histoire déjà. J'avais bac plus 3. On me dit oui.
C'est déjà trop diplômé, bac plus 3.
Vous êtes trop diplômé, vous vous rendez compte, nous on accepte des gens sans le bac, vous allez prendre la place d'un pauvre garçon qui n'a pas eu sa chance, etc. Vous vous débrouillerez bien, vous avez l'air intelligent.
D'accord.
Ok. Et...
oui, mais c'est ça que je veux faire.
C'est ça que je veux faire, bah, débrouillez-vous. Et à l'époque, c'était pas comme maintenant. À l'époque, les formations. Ça courait pas les rues, c'était quelque chose qui était super nouveau.
Oui, puis aller sur internet pour chercher des infos.
Ah, bah il n'y avait pas d'internet. Donc en 90-91, il n'y avait pas d'internet. Ouais. Donc on s'échangeait avec des disquettes, des SideQuest à l'époque, c'était des grosses cartouches énormes qui faisaient 40 mégaoctets. C'était très très petit, mais bon, voilà. Et donc, comme je suis quelqu'un d'assez têtu, et quand on me dit non, généralement, c'est pas une réponse qui me plaît. J'ai dit, bah vous allez voir, j'ai racketté toute ma famille, je me suis acheté un Mac et je me suis formé tout seul. Et ensuite, j'ai été au culot frappé à la porte d'un hebdomadaire qui avait besoin d'un maquettiste. J'en ai vulgairement chié les premiers temps parce que c'était dur. C'était dur, il fallait que j'apprenne tout, je faisais beaucoup d'erreurs, etc. J'étais assez nul. Mais bon, avec le temps, je me suis accroché et voilà. Et maquettiste 1, maquettiste 2, directeur artistique, voilà, j'avais fait le tour de la question en quelques années. Je m'ennuyais.
Donc, et tu lances Comic Box à ce moment-là ou tu as déjà lancé d'autres magazines ?
Non. J'ai toujours eu la fibre de la presse. Hein, j'ai toujours adoré la presse. C'est là que j'aime travailler, c'est là que j'aime être. Et ça me passionnait. Et donc, j'étais à ce moment-là, je travaillais dans une agence de communication. Je faisais des choses assez basiques, des plaquettes, je faisais des tout ce qui était matériel de communication pour. J'ai fait. Des affiches pour des pompes à insuline, des lettres pour des lettres d'information pour la compagnie financière Edmond Rothschild, enfin des trucs qui étaient certes très bien, hein, mais bon, qui m'intéressaient pas autant que les comics. Donc voilà, j'ai eu une opportunité. La boîte dans laquelle je travaillais n'allait pas très bien. Le boss me dit, écoute, on va pas super bien. Si t'as une autre opportunité, prends-la. Et il se trouve que bon, j'ai eu un petit héritage qui est tombé à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment, lance-toi, quoi. Donc, on a eu cette idée de faire Comic Box en janvier 98, une semaine avant Angoulême.
Oui.
Une semaine avant Angoulême, je te raconte souvent cette histoire parce que c'est vrai qu'elle est rigolote maintenant avec le recul, mais j'étais en train de glandouiller chez moi par terre parce que je lis souvent mes comics par terre, hein,
oui,
sur le parquet.
Mais le carrelage c'est froid.
Oui, le carrelage c'est froid, mais le parquet ça va.
Ouais.
Donc je lisais mes comics par terre et je me retourne vers ma femme à ce moment-là, hein, et je lui dis mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de magazine sur les comics ? Elle me dit t'as qu'à le faire. Et voilà, il ne faut pas me lancer un défi. Hein.
Oui.
Donc, voilà, on est allé à Angoulême la semaine suivante et on a testé notre idée. Les éditeurs à l'époque, Semic et Panini, nous ont dit « Ah ouais, faites-le, vous avez l'air sympa ». Et quand ils ont reçu le numéro 0 4 mois plus tard, ils ont dit « Mais vous êtes fous, qui vous êtes ?» Qui vous êtes ? D'où vous venez ? Il y a même une nana à l'époque de chez Semic qui nous a dit « Enfin, je comprends pas ». On connaît tous les fans et on vous connaît pas. D'où vous sortez ? On vient de la presse. Ah, bon, rendez-vous quand vous voulez. Hein. Je vous souhaite bonne chance. Et on a sorti le numéro 0 au mois d'avril 98. Et le numéro 1 le 10 juillet. Donc on n'a pas perdu de temps. Hein.
Ouais. Moi, je sais que c'était souvent comparé à un Wizard à sa sortie. Ce qui était l'équivalent américain.
Sauf que je dirais que le seul point, il y a deux points communs entre Wizard et nous. Le premier, c'est qu'on faisait un magazine sur les comics.
Ouais.
Et le deuxième, c'était que c'était qu'on était que deux. dans le monde entier, il n'y avait pas 50 magazines sur les comics.
Oui.
Mais en dehors de ça, tout nous séparait. Les gens de Wizard et nous, eux c'était des fans qui faisaient un magazine pour les fans. Nous, on était des journalistes qui faisions un magazine d'information. Et c'est une très grosse différence de conception. Et je veux dire, bon.
Il y avait déjà quand même les rubriques de l'époque qui étaient assez pour les fans, je pense au match de boxe, ce genre de trucs.
Tout ça, on l'a arrêté progressivement.
Oui, ça s'est arrêté progressivement. On l'a arrêté progressivement.
Oui, parce que si tu veux, je dirais qu'il y a eu trois ou quatre phases dans la vie de Comic Box. Si on peut faire une digression pour parler de Comic Box, mais il y a eu trois phases. Il y a eu la première phase, c'est un peu, la période bleue. C'est comme dans Picasso, il y a la période rose, je sais jamais dans quel ordre ça vient. Donc il y a eu la première période, il y a eu l'âge d'or, on va dire.
Le Golden Age.
On va faire une analogie que les fans connaissent, où on était vraiment en train d'apprendre. Les premiers numéros, quand je les regarde aujourd'hui, j'ai un peu honte.
Les maquettes sont super flashy, c'est drôle.
C'était il y a 14, presque 14 ans. Donc. Forcément, ça a pris dans la gueule. Hein, ça a pris dans la gueule. Mais cela étant, ça correspondait au public de l'époque. Ça correspondait à ce qu'on voyait. Nous, ce qu'on avait fait, c'était, on avait simplement regardé la maquette des comics. On avait pris le format des comics et on s'était calqué dessus parce qu'on s'était dit, comme on nous connaît pas, on n'a pas d'historique, personne connaît notre nom. Et puis à l'époque, voilà, Internet était balbutiant. On a tout de suite mis l'adresse du site internet comicbox.com sur la couverture du premier numéro. Cela étant. C'était assez basique. Donc il n'y avait pas de communauté, et ça n'existait pas tout ça. Donc le seul moyen de se faire connaître, c'était d'entretenir la confusion. C'était que la personne qui allait acheter un numéro de Comic Box allait avoir l'impression d'acheter un comic book.
Oui, parce que c'est vrai que ça y ressemblait pas mal.
Parce que ça y ressemblait, donc on a entretenu la confusion au dernier degré, et donc forcément c'était un peu flashy, et voilà.
Alors qu'il n'y avait pas du tout de prépublication à l'époque.
Non, à l'époque il n'y en avait pas, et ça a marché tout de suite, la confusion ça a marché. Numéro 1, boum, 10 000 exemplaires
vendus. Rapidement, parce que tu l'as pas lancé tout seul, tu l'as lancé donc non. Avec... Il y avait Xavier Fournier déjà.
Alors Xavier est arrivé au numéro 1.
D'accord.
Il y avait Lise.
Il
y avait Lise. Lise, Xavier et moi, en fait, on était depuis le début. Hein, et il y avait quelques individus qui ont gravité autour de nous. Mais le noyau de base, ça a toujours été Xavier, Lise et moi.
D'accord. Ok. Bon, Comic Box a une histoire assez difficile. Il y a des périodes
creuses.
Il a disparu. Il est revenu en librairie, en cartonné, grand format.
Ouais.
Mais avant ça, il était déjà passé en grand format, il me semble.
Oui, absolument. On est passé en grand format en décembre 99. Tu vois, je connais tout. Hein.
Ah ouais, tu as une bonne mémoire. Donc, c'est super ennuyeux, parce que les premiers numéros, souvent, ils sont dessous.
Non, en décembre 2000, pardon, je raconte une bêtise. En décembre 2000.
Parce que les 99. Premiers numéros, ils sont petits, on les met dessous, en général, dans les piles, et les gros dessus, ça fait un peu...
En fait, on s'est rendu compte, on était passé au grand format, parce qu'on s'était rendu compte que, en termes de publicité, on n'était pas crédible avec un petit format. Et que personne ne voulait passer de la publicité dans Comic Box. Or, la publicité, c'est crucial dans un magazine. Donc en passant en grand format, au début avec un dos piqué, puis ensuite avec un dos carré, on savait qu'on allait ressembler à un magazine, entre guillemets, un grand, un vrai. Et surtout, on ne pouvait plus nous taxer d'être un faux comic book.
Oui.
Donc on a assumé le fait d'être un magazine, et ça fait partie de notre histoire, et après ça ne nous a pas lâchés. Hein.
La version qui est sortie en librairie faisait très... Enfin, c'est un MOOC, quoi, comme on dit.
Ouais, c'était un almanach, nous on appelait ça un almanach.
MOOC n'était pas encore à la mode comme mot,
ouais,
je pense.
C'est vrai. Ça n'existait pas, mais on est peut-être été parmi les premiers, effectivement, à faire un MOOC. C'est vrai.
Ça a duré trois ans, on avait un hors-série par an, en gros.
Ouais.
Et le retour en kiosque
En 2005.
Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire de Comic Box, on reviendra après quand on viendra sur la suite, mais il y avait le début de la prépublication qui est arrivé, il y avait déjà eu des hors-séries qui étaient sorties avec de la publication carrément, qu'on pouvait prendre sur commande.
Oui.
C'était toi qui t'en occupais de ça ?
C'était les licences, tu veux dire ?
Ouais.
C'était moi et Lise, généralement, c'était ou l'un ou l'autre.
Hein, c'était le moyen de prendre des points d'expérience en édition.
C'est pas seulement ça, c'est que, en fait, on avait commencé quand on a fait Comic Box en grand, on s'est dit, il faut ajouter un plus. Et je sais pas si tu te souviens, on avait fait des Comic Box Alpha, des Comic Box Extra, des Comic Box. plus, on leur donnait des dénominations différentes à chaque fois, parce qu'on avait l'impression qu'en apportant quelque chose de plus, bah, les lecteurs auraient vraiment envie d'aller chercher le truc. Et donc on allait chercher des numéros 0, des numéros 1,5, des numéros moins 1, des numéros preview, des
pré-fermés.
Alors voilà, ils étaient sous blister parce que c'était plus économique pour nous de le faire comme ça. Et ça donnait envie d'aller regarder ce qu'il y avait dans le blister. Et c'est vrai que c'est une formule qui avait son public, parce que le magazine était petit à l'époque, il faisait 48 pages, mais on était mensuel.
Oui.
Donc il fallait aller chercher ses licences tous les mois. Tu vois, on a fait des trucs incroyables, le carnet Fatum par exemple.
Oui. Le
carnet Fatum, c'est un truc qui, quand on a dit ça aux Américains. À l'époque, c'était Mike Turner et Frank Mastromoro étaient encore chez Topco. Mmh. Avant de fonder Aspen. Frank Mastromoro était déjà l'associé de Mike. Et quand on l'a eu au téléphone et qu'on lui dit, Frank, on voudrait faire un carnet de croquis miniature pour mettre dans Comic Box, il a dit, écoutez, je vous paye à bouffer si vous y arrivez. Parce que Mike était tellement dans la lune que on lui dit, écoute, on lui demande pas grand chose, on lui demande 6-7 planches croquis de Fatum, etc. Et puis, contre toute attente, après l'avoir reporté pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, le truc a fini par arriver par FedEx. On a reçu les planches au bureau et on était éblouis. Il nous a payé à bouffer.
C'était des planches vraiment pour ça ?
Ça a été fait que pour nous, oui, absolument.
D'accord. Il y avait en plus, à l'époque, il y avait encore des couvertures originales.
Il y en a eu longtemps des couvertures originales.
Ouais, parce qu'apparemment, je me suis fait avoir en disant ah, une couverture de Charest sur un des derniers.
Sur les 70.
Et là, ouais, et là on me dit ah oui, mais c'est plus des originales donc maintenant.
Là en ce moment, c'est plus des originales pour plein de raisons. La première, elle est budgétaire.
Ouais.
Mais la seconde, c'est que c'est de plus en plus difficile parce que la politique de Marvel et de DC en matière de couverture originale pour tout ce qui est non Marvel et non DC, c'est-à-dire pas pour eux, est devenue très contraignante. Donc. Voilà, on peut plus choisir l'artiste qu'on veut, on peut plus choisir le sujet qu'on veut, donc aujourd'hui c'est vraiment compliqué.
Ouais, ils verrouillent de plus en plus leur image.
Et puis regarde, eux-mêmes ils font des variantes, ils font des trucs, voilà, et ils les font payer au plein pot.
En 2004, tu fondes Full FX.
Ouais, absolument, en juillet encore.
Encore ? C'est le mois où tu travailles le plus ?
Non, c'est le mois de mon anniversaire.
Ah d'accord.
Non, je plaisante. C'est vrai que c'est le mois de mon anniversaire, ça veut dire.
Donc Full FX,
ouais.
Donc, FX. En gros, ça a l'air très très large comme structure au niveau des activités.
Alors, mais pas au niveau des effectifs, je t'assure. Full FX, en fait, est né. C'est une agence qui est née de la crise. C'est-à-dire que comme je le dis souvent, voilà, ma première boîte TSC, elle a été fondée pour Comic Box.
Ouais.
Le but, c'était de faire un magazine d'information sur les comics. Et puis, quand on a vu que ça n'allait pas être suffisant, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est lancé, on s'est diversifié, on a fait des magazines jeunesse. On a fait un qui s'appelait CB Kids, qui était une version junior de Comic Box, où il y avait des licences, il y avait Batman, il y avait les Tortues Ninja, etc. Donc on est trempé déjà dans le milieu de la licence. Hein.
Oui.
Il y avait les Power Rangers, enfin il y avait vraiment plein de choses.
Et je me souviens, ça me faisait bizarre de voir les pubs Power Rangers dans mon Comic Box.
C'était pas Comic Box, c'était CB Kids.
Ouais, ou CB Kids, mais de voir ces trucs-là, ça me faisait...
Et puis de fil en aiguille, on a fait d'autres choses, on a fait les Razmoquettes, on a fait un Arc-en-Ciel, on a fait le Petit Dinosaure, enfin on a fait quelques licences, quelques magazines sous licence. Et puis bon, quand TSC a fait faillite, on s'est dit que le marché de la presse jeunesse était encore un marché florissant. Et c'est là qu'on s'est tous recasés, ou presque. À part Xavier, qui a été faire une escapade comme rédacteur en chef de Natation Magazine.
Oh. C'est son amour pour Fazom.
Je ne sais pas, mais il est resté un moment chez Natation Magazine pendant l'absence, jusqu'à ce qu'on revienne. Donc, clairement, la presse jeunesse, Lise et moi, on a été chez Cyberpress Publishing. On faisait pas la même chose, mais ça a été une expérience formidable pour nous.
Cyberpress Publishing, ça me dit quelque chose.
Oui, c'est un éditeur qui a disparu aujourd'hui, qui a été absorbé par Panini, du reste, hein, dont une partie a été absorbée par Panini.
C'était eux qui faisaient PC Team et BDK, c'est ça ? Ou je confonds ? C'était pas eux qui faisaient PC Team et BDK ?
Non, je confonds, c'est autre chose. Du tout. Non, ils faisaient Kidsmania, ils faisaient tous les magazines Warner, mais ils avaient aussi un pôle cinéma, ils faisaient Ciné Live.
Oui.
qui d'accord. ensuite a été revendu au groupe Roularta, voilà, mmh. exactement. Et ils avaient un pôle musique, ils avaient Rolling Stone, ils avaient Trax, ils avaient bon, plein de choses. Et, bon, et le groupe Cyber Press, donc le pôle jeunesse, voilà, on travaille au pôle jeunesse, parce qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas vraiment d'autres alternatives. Il y avait,
oui.
C'était soit aller travailler dans autre chose que de la presse, soit continuer notre métier et être dans la presse jeunesse, parce qu'il n'y avait pas d'équivalent à Comic Box. Tu ne pouvais pas te recraser chez un concurrent. Oui. C'est bon, ça n'existait pas. Donc,
c'est dur hein, qu'on crée son marché qui s'effondre.
voilà. Donc il fallait. Bon. Et donc cette expérience qui a duré. Je suis resté 18 mois chez Cyberpress, et puis après j'ai estimé que les vacances étaient terminées. Et que retrouver un poste de directeur artistique quand tu as été rédacteur en chef et directeur artistique, parce que j'ai toujours cumulé les deux, hein, c'est-à-dire que j'ai toujours fait les créations graphiques de tous les magazines dans lesquels j'étais.
Tu étais dans le Spirit of the PAO
Spirit of the PAO, et c'était moi. tu vois, je révèle des secrets aujourd'hui. Hein. Je balance. Pourquoi ? Parce que en fait, j'avais développé une technique qui était d'écrire et de maqueter en même temps.
Ah oui, ça donc, se fait pas en théorie.
Hein ?
Ça se fait pas en théorie.
En théorie, ça se fait pas, mais moi je trouvais ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide.
C'est la méthode Word, ça, hein, les maquettistes, ils doivent pas aimer.
La méthode Word ?
Ouais, on met en page en même temps qu'on écrit.
Ouais, enfin, heureusement qu'on n'utilisait pas Word, qui n'est pas un logiciel
oui,
de PAO,
je
mais
sais.
Bon, voilà. Donc j'étais dans mes maquettes Express au début, puis InDesign après. Et puis voilà, je le fais toujours du reste. Hein, je continue d'écrire et de maqueter en même temps. Je ne fais pas d'abord mon texte et ensuite. Non, je fais les deux en même temps. C'est une déformation professionnelle. Donc voilà, je m'étais recasé après l'escapade TSC. Je m'étais recasé comme directeur artistique parce que c'est ce qu'on me proposait. Voilà, au bout de 18 mois, je trouvais que. C'était bon et que le virus de l'écriture m'a repris quoi. J'avais envie d'écrire et ne faire que de la mise en page, c'était pas suffisant pour moi. Donc le groupe Custom Publishing est venu me chercher. Je trouve que je connaissais très bien le rédacteur en chef de Mad Movies de l'époque,
oui.
Damien Granger, qui n'est plus à Mad Movies mais qui est toujours un copain. Et Damien me dit, tu sais, il faudrait que tu rencontres mon boss. Il y aurait peut-être des choses à faire, etc. Il a envie de se diversifier dans la jeunesse. Je l'ai rencontré, on s'est plutôt bien entendu, et je suis rentré chez lui pour faire un magazine d'ado qui n'a pas marché. Je suis resté 6 mois à peu près là. On a fait un magazine d'ado, puis un deuxième magazine. Les deux n'ont pas marché.
Ça tourne beaucoup, hein, j'ai l'impression, les magazines d'ado.
Non, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais c'est bon. Il y avait clairement des carences. Et au bout de 6 mois, il nous a licenciés. Enfin, j'avais fait venir Xavier. Xavier était revenu travailler avec moi. Et on s'est dit avec Xavier, en sortant de là, il faut qu'on réfléchisse vraiment à comment notre métier fonctionne. Et on s'est dit, voilà, c'est la crise de la presse. Si on veut survivre, et puis c'était dur de trouver du boulot aussi. Et on s'est rendu compte que on était en 2004, donc il n'y avait pas d'auto-entrepreneur, il n'y avait rien. Hein, que quand tu te présentais dans une boîte de presse et que tu disais voilà, j'ai une idée, est-ce que vous voulez qu'on fasse des magazines ensemble, on disait alors ça coûte cher. Et puis quand tu devenais en tant qu'indépendant et que tu disais voilà, j'ai ma société, je vous vends une prestation, on disait ah, c'est pas mal, vous pouvez travailler avec nous. Donc ils étaient prêts à entendre qu'une agence leur vende un service, mais ils ne voulaient pas d'employés supplémentaires. Ils avaient la terreur des employés. Donc voilà, on a créé Full FX parce qu'on s'est dit on veut continuer à faire notre métier de journaliste, de faire de la presse de manière indépendante. Et en même temps, pour le compte d'autres. C'était, grosso modo, c'était continuer de faire notre métier en nous mettant au service des autres. Et ça a fonctionné tout de suite. Ça a fonctionné tout de suite parce qu'on s'est mis... Il y avait 3 axes. Le premier, c'était de faire des magazines. Donc on faisait des magazines en externe. C'est toujours ce qu'on fait, du reste. Hein. On continue de faire des magazines pour les autres. Et puis, au fond de nous, il y avait aussi l'envie de faire un studio de BD. Et donc de continuer à travailler avec ça. Mais à l'époque, quand on a fondé Full FX, il n'était pas question de ramener Comic Box.
Oui.
C'était même, on n'y a même pas songé.
Full FX existe toujours. Donc là,
FX existe toujours.
Parce que sur le site est mort en fait.
Full FX est mort.
Le site, ouais. Full FX.
Le site est mort.
Le site, oui.
Oui, parce qu'on n'a pas le temps de le poser, ouais. Mais je te rassure tout de suite. Full FX existe bien.
D'accord.
J'y étais encore hier. Donc j'ai toujours mon bureau. Tout va bien. Donc voilà. Et effectivement, fin 2004, Gérard Cohen, le patron de Custom Publishing Mad Movies, vient nous voir et nous dit écoutez, on aimerait faire un hors-série sur les comics de Mad Movies qui sort pour Angoulême.
En plus, c'était 2004, on commençait à avoir déjà eu des films, on avait déjà eu les films
voilà,
qui étaient bien dans l'esprit de Mad Movies.
Tout à fait, exactement. Et il y avait des parallèles de public qui étaient évidents.
Ouais.
Et on dit ok, on va le faire, mais on a exigé qu'il y ait un macaron comic book sur la couverture. On a fait dessiner une couverture originale par Mike Mayhew avec Spider-Man et les 4 Fantastiques.
Ouais.
Il s'est éclaté du reste à faire ce truc là et on a fait un vrai numéro de comic box sauf qu'il s'appelait Mad Movies.
Oui, je me souviens.
Et ça a été un succès sans précédent dans la hiérarchie des hors-séries de Mad Movies. Je crois qu'on était la deuxième meilleure vente toute catégorie de hors-séries derrière Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux.
Ah oui, d'accord.
Qui avait vendu un score faramineux avant nous. Et donc effectivement ça s'est très bien vendu et Gérard Cohen est revenu me voir et il m'a dit j'aimerais un deuxième hors-série et je lui ai dit non. Je lui ai dit non, moi je veux pas faire un hors-série, ça m'intéresse pas, je veux qu'on ramène Comic Box. Et il m'a dit banco. Et donc on a relancé Comic Box avec Custom en juillet 2005, sous sa forme quasi actuelle.
Hein, oui.
Avec un nouveau numéro 1, etc. Et on a retrouvé tout notre public. Qui nous avaient plus vus depuis 3 ans. Ils étaient tous là, presque à la dizaine près. On a fait peu ou prou le même score au numéro 1 de la version 2 de Comic Box qu'à la version 1 du numéro 1.
Vous étiez pas mal attendu au tournant quand même. Hein. C'était, enfin, moi, je sais que quand le magazine avait disparu, je n'avais pas de comic shop par chez moi.
Ouais.
C'était vraiment ma source d'infos sur ce qu'il fallait.
Encore une fois, il n'y avait pas d'internet, il y avait beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais, etc. Et donc Comic Box avait une vraie utilité. Bon, c'est sûr qu'on a reçu souvent des lettres d'insultes. Des gens qui nous ont dit oui, vous verrez quand la concurrence arrivera, vous allez vous en prendre une, etc. La preuve, on l'a enterrée.
Oui.
Et même mieux, je veux dire, la concurrence a fini par nous accueillir chez elle. Donc c'est. Parce qu'après après quelques mois chez Custom, Panini nous a fait une offre pour. Passer chez eux. Et
qui a fait polémique d'ailleurs derrière.
Qui a fait, oui, une polémique, tu vois, tellement justifiée qu'on n'en a plus entendu parler au bout d'un numéro, quoi.
Oui, oui, mais c'est vrai que ça fait très peur quand même que vous.
Écoute,
vous passiez avec
parce que personne ne nous a posé la question, mais à l'époque, c'était très clair. Nous, on a donné un catalogue de conditions impossibles à accepter à Panini, et ils ont tout accepté. On leur a dit voilà, on veut être indépendant, on ne veut pas de logo Panini, on ne veut pas être dans la checklist. De vos revues, on veut être inattaquable et on veut tel BD, le catalogue Marvel, le catalogue DC, on veut machin. oui et on veut être mieux payé, oui. Voilà,
qu'est-ce que tu aurais pu demander en plus d'après toi?
On s'est posé la question hein, mais non, c'était pas possible. Voilà, donc Panini a été très généreux avec nous et clairement, je veux dire, la preuve est là, on a fait avec Panini quasiment plus de numéros que tout seul.
Oui.
Et là, si tu regardes depuis 2005, depuis qu'on est revenu en kiosque, on a fait plus de numéros qu'entre 98 et 2001, pendant le Golden Age.
Oui.
Donc pendant le Silver Age, on a fait plus de numéros que pendant le Golden Age, si tu veux. Et on a duré beaucoup plus longtemps, on a duré 2 fois plus longtemps.
C'est
ça continue.
C'est ton départ, le Modern Age.
C'est
ton départ, le Modern Age.
Ah, il faudrait demander à Xavier. Mais là, je ne sais pas si ça enclenche un nouvel âge. J'espère, enfin, en même temps, il n'y a pas de raison. Xavier et moi, on a toujours navigué en parfaite harmonie tout ce temps-là. La nouvelle équipe n'est pas une équipe d'inconnus. Je veux dire, Xavier est rédacteur en chef, Lise est toujours rédactrice en chef adjoint. Ça reste, je veux dire, voilà, on n'a pas fait venir des inconnus.
Oui.
C'est l'équipe historique de Comic Box qui est toujours là. Il y a juste moi qui n'y suis plus. Voilà.
Oui, oui. Full FX, tu as parlé du studio.
Ouais.
Ce qui est marrant, c'est que, en fait, j'ai vu plein de petits illustrateurs qui faisaient des petits dessins dans les coins des Comic Box, qui ont commencé à se faire connaître.
Ouais.
Donc il y a Jean-Marie Minguez,
ouais,
il y a les frères Perru.
Ouais, aussi.
Il y a, comment il s'appelait,
Alexis Briclot, on a été un des premiers à le publier.
Ouais, Alexis Briclot qui faisait dans les jeux de rôle aussi.
Ouais.
Moi, je l'avais découvert dans les jeux de rôle, moi.
Il y a eu quelques personnes qui sont venues.
Quelle île, je crois ? Non, je ne sais plus. Non, je sais plus. J'ai une mémoire qui vient de loin, mais non. C'est...
Il y en a eu quelques-uns, effectivement, qui sont passés chez nous. Il y a eu Stéphane Louis.
Oui, Stéphane Louis aussi. Oui.
Il y en a quelques-uns qui sont passés chez nous avant d'aller exploser ailleurs. Et franchement, c'est mérité. C'est mérité. Et je suis content qu'on les ait un jour accueillis chez nous. Et voilà. Donc, mais le studio, si tu veux, quand on a mis en route le studio, c'était parce qu'on avait développé une espèce de théorie avec Xavier qui ne s'est jamais réalisée. C'était qu'on voulait que tous les bénéfices accumulés dans la création de magazines nous aident à publier nos propres BD et créer nos propres licences.
D'accord.
Et puis ça a tourné court parce que bon, la marge sur les magazines n'est pas ce qu'on pensait. Et puis on a été absorbé dans beaucoup de choses, mais on a quand même... On a eu quand même quelques créations, on a fait de la BD pour enfants.
Justement, la BD pour enfants, donc, vous avez fait. J'ai l'impression que c'est le lien qui t'a amené à l'écriture de comics derrière.
Oui.
Donc, vous avez publié un tas de magazines jeunesse.
Oui, un nombre incalculable.
D'ailleurs, c'est quand j'ai regardé un peu donc, tout ce que tu avais fait en magazine jeunesse, mais tu as bossé sur un nombre de magazines jeunesse phénoménaux,
ouais.
Voire même les magazines jeunesse Batman, ouais. Les Speedy, etc.
Oui, absolument.
Donc des choses que moi je voyais de loin parce que c'est plus de mon âge, mais qui prennent de la place dans les linéaires.
Ouais.
Et apparemment, c'est là que tu as commencé à écrire pour la jeunesse.
Oui, en fait, j'ai commencé à écrire dans la jeunesse en 2006, je crois. Cyberpress avait un magazine, puisque Cyberpress à l'époque avait la licence Warner Bros. Et quand Cyberpress a été absorbé par Panini... Panini a récupéré la licence Warner Bros. Et dans la licence Warner Bros, il y avait un magazine pour les petites filles qui s'appelait Tweety. Comme Titi, hein. C'est oui. Le nom américain de Titi.
Oui.
Tweety Girl. Et dans Tweety Girl, qui était un magazine pour les 8-12 ans, on nous avait sollicité pour créer un nouveau personnage. Et ce personnage s'appelait Maya Princesse Papillon. Et Maya Princesse Papillon a été publiée à raison de 12 pages par numéro de Tweety pendant... un an et demi.
C'est le mensuel ?
Non, du bimestriel.
Bimestriel, hein. D'accord, ouais.
Donc j'écrivais l'histoire, et j'avais une dessinatrice qui s'appelle Jessica Young, qui est extrêmement talentueuse, et que je salue. Et avec Jessica, donc on faisait Maya Princesse Papillon, tous les deux mois, dans Tweety. Et quand Tweety s'est arrêté, on a un peu réfléchi, et un ou deux ans plus tard, on a eu l'opportunité de lancer un Maya Princesse Papillon magazine. Où j'ai continué à écrire la série. On a aussi créé une autre licence qui s'appelait Foot Dragon pour un magazine de Panini qui s'appelait Foot Magic et qu'on a pareil converti en album. Il y a eu deux albums de Foot Dragon qui ont été publiés. Et puis plein de petites choses comme ça, des petites histoires.
C'est un moyen de faire tes armes en tant que scénariste
je crois que oui, je crois que c'était un moyen de me tester aussi, est-ce que j'avais la capacité d'écrire, etc. Et puis il y a eu Spider-Man Noir.
Là, le Spider-Man Noir, c'est celui qui a beaucoup fait parler. Donc le deuxième scénariste français...
Oui, c'est vrai.
C'était qui après, le premier ?
C'était Jean-Marc L'Officier.
Jean-Marc L'Officier, oui, effectivement.
Voilà, rendons hommage à César, c'était Jean-Marc L'Officier. Et donc, après lui, c'est moi.
Voilà, avec un scénariste anglais, David Hein, il est anglais.
David Hein, anglais.
Et un dessinateur
anglais,
italien.
Anglais, mais francophone. Hein.
Francophone. Ah, il est francophone.
Oui, ouais, en fait, la femme de David est française.
D'accord.
Et donc, il a toujours l'habitude de dire que chez lui, on parle français à la maison, et qu'il est en minorité. Parce que voilà, sa femme parle français, son fils parle français. Il va d'ailleurs à l'école française. Maintenant, je peux te garantir qu'avec Dave, il a toujours refusé de me parler en français.
D'accord.
Donc avec Dave, je n'ai jamais parlé français.
Parce que c'est le travail et le travail, c'est en anglais.
Je sais pas. Non, non. Parce qu'il m'a toujours dit ton niveau d'anglais est suffisant. Donc j'ai pas besoin de faire des efforts. C'est toi qui vas en faire pour une fois. Mmh. Voilà.
Ouais. Et un dessinateur italien.
Un dessinateur italien, absolument. Que je n'ai jamais rencontré. Hein.
Ah ouais ? Tu l'as jamais rencontré ?
J'ai jamais rencontré. Non, parce que c'est Marvel qui a organisé. Dave et moi, on s'est occupé du scénar, et Marvel a organisé la Creative Team.
Mais il n'était pas passé en France il n'y a pas longtemps en plus, il me semble.
Écoute, s'il est passé en France, je serais très heureux de le savoir, mais je crois qu'il a annulé toutes ses participations. D'accord. Au moment où il devait passer. Hein.
D'accord. Et donc Spider-Man Noir, qui en gros est arrivé dans une série noire, et tu n'étais pas au courant?
J'étais pas au courant, non. Non, personne n'était au courant en fait. Quand on a proposé Spider-Man Noir, Marvel nous a dit oui tout de suite. Et puis ensuite, on n'a plus entendu parler d'eux pendant 7 mois.
Tu avais déjà le lien avec David Hein à ce moment-là?
Oui. En fait, je connaissais David depuis 1 ou 2 ans avant. On a été mis en contact par une personnalité très connue du monde de la BD américaine, qui est Richard Starkings.
Oui.
Qui est le type qui a inventé le lettrage numérique dans les comics. Richard organise chaque année au Comic-Con de San Diego des petits déjeuners qui sont devenus célèbres, où il met des gens en commun. Et il t'assoit autour de la table. Tu ne sais pas à côté de qui tu vas être assis, mais tu sais que ça va te servir.
D'accord.
Donc Richard aime mettre les gens en commun, il aime faire naître des collaborations, etc.
Mais ouais, c'est quelqu'un dont on entend beaucoup parler, dans toutes les interviews.
Et c'est quelqu'un de très généreux. Il est vraiment. C'est un très bon ami et c'est surtout quelqu'un d'indispensable dans le marché des comics.
Alors qu'il fait qu'écrire le texte dans les cases, hein, franchement.
Voilà. Non, il est aussi scénariste, oui, attention. Oui. Hein, il a une série qui s'appelle Elephant Man et qui continue toujours.
Oui, qui est sympa.
Donc, Richard m'assoit à côté de Dave et puis ça colle tout de suite entre lui et moi. Et un jour, je lui dis, Dave, je suis à Londres, j'étais à Londres. J'avais rendez-vous, pour la petite histoire, j'avais rendez-vous avec un éditeur anglais qui envisageait à ce moment-là de nous faire travailler, de faire travailler Full FX sur une version de Batman Magazine pour les enfants, qu'on faisait déjà pour la France.
D'accord.
Et j'étais là pour 2 jours et je dis à Dave, écoute, je suis à Londres, tu veux pas qu'on prenne le petit déjeuner ensemble? Il me dit ok, on se voit dans un café. Et la nuit d'avant, il m'est venu l'idée de Spider-Man. J'avais que 2 choses. J'avais le titre et j'avais la scène d'ouverture du premier album avec qui a tué Jonah Jameson et Spider-Man sur le bureau.
T'es arrivé avec cette idée de idée de Spider-Man noir. C'est Marvel qui a rebondi sur cette idée en se disant c'est un faisceau d'idées arrivé en même temps.
Du tout. On saura jamais.
D'accord.
Tout ce que je peux dire, c'est que quand j'ai eu cette idée, en fait le postulat de base c'était: et si Peter Parker avait grandi dans une société différente, si son environnement social avait été plus violent, plus dur, et celui des années 30 me paraissait être totalement en phase avec cette idée-là. Et donc si c'était transposé, qu'aurait été-il, comment il aurait été, etc. Et quand j'ai proposé ça à Dave, le premier truc qu'il m'a dit, c'est de la merde, ça ne marchera jamais. Et j'ai donc été très déçu. Et j'ai dit, bon, c'est lui le pro, on va accepter. Oui. Je prends mon TGV, je reviens à Paris. Et quand je suis rentré à Paris, j'ai trouvé un email de Dave qui me dit, tu es un enfoiré, j'ai pensé à ton idée toute la journée. En fait, il y a ça, ça et ça à échanger. Mais on peut le faire et on peut arriver à quelque chose. Et de là, on a commencé à discuter de quel pitch ça pouvait être. Et Dave a apporté énormément d'idées. Le contexte social l'intéressait beaucoup. Il y a des choses... ça n'a pas d'intérêt, bien sûr, mais je pourrais détailler exactement ce que Dave a apporté et ce que j'ai apporté. L'important est que la mayonnaise est prise. Voilà. Dave a tiré peut-être... la série plus dans le côté pulp, parce que c'est ce qui l'intéressait. Ouais. D'ailleurs, le premier pitch de Spider-Man Noir, comme on n'arrivait pas à se décider parce qu'on se battait sur le titre, il y avait Dave voulait l'appeler Spider-Man Pulp. Et moi, je voulais l'appeler Spider-Man Noir, parce que c'était mon idée de base. Et Marvel a tranché en ma faveur là-dessus. Bon, mais c'est pas pour dire que ça...
Oui, qu'ils étaient
meilleurs. C'est juste pour dire que les éléments pulp, ils sont dans le truc. Par exemple, tout ce qui est autour de la statuette mystique qu'il y a dans le premier numéro, comment il acquiert ses pouvoirs, etc. Et au moment où on a créé ce truc là, on l'a envoyé à Joe Quesada direct, et il a réécrit tout de suite en disant ça m'intéresse, je vous recontacte très vite. Et effectivement, quelques semaines plus tard, Warren Simons, qui était notre éditeur, nous a envoyé un email en disant « Les gars, je vais m'occuper de vous, c'est bon, on vous envoie les contrats. » Mais à ce moment-là, aucun d'entre nous n'avait idée qu'il y avait d'autres séries noires. On pensait qu'on était tout seul. C'était même hallucinant. On était, Marvel a segmenté les informations de manière incroyable.
Ça permettait peut-être aussi de mieux,
je
de
ne sais
mieux
pas.
Retenir...
Non, mais c'est surtout que tous les projets noirs, les projets Marvel noirs, ont été développés dans deux bureaux d'édition différents. C'est-à-dire les éditeurs aux États-Unis, ils ne sont pas tous ensemble.
Oui.
Voilà, nous, on était chez Warren Simons, mais tous les autres étaient chez Nate Cosby, qui est un autre éditeur de Marvel, qui n'y travaille plus du reste. Hein. Nate Cosby, lui, il a fait faire X-Men Noir, et puis Wolverine, et puis voilà. Donc tous les autres étaient chez Nate Cosby, et nous, on était tout seuls chez Warren Simons. Donc ça a fait qu'en matière de promo, en matière de trucs, on a été traités vraiment différemment des autres. Alors, en mieux, en moins bien, je sais pas, c'est pas à moi de juger, hein, bien sûr, mais clairement, ça fait une différence, voilà. Et par exemple, on le voit aussi dans le traitement. On est la seule série noire où le personnage a des super-pouvoirs.
De quoi le mettre dans un jeu vidéo ?
Comment ?
De quoi le mettre dans un jeu vidéo ?
De quoi le mettre dans un jeu vidéo ? On est aussi le seul à avoir été adapté en jeu vidéo.
Et ça, ça fait...
ouais. Ce qui est rigolo, c'est que, pour l'anecdote, les développeurs... quand l'éditeur nous a appelés en nous disant... Activision voudrait mettre Spider-Man noir dans le jeu vidéo, vous trouvez ça pas cool? On trouvait ça cool, mais assez ironiquement, le costume qu'ils ont choisi était celui qu'on avait rejeté.
D'accord.
Donc voilà.
Donc avant de revenir sur l'écriture, j'ai quand même essayé de chercher un petit peu et j'ai vu sur Comic Vine que tu t'es associé à deux trucs, et je ne sais pas pourquoi, c'est une blague peut-être, donc à un Dark Tower et surtout à Michelle Obama Year One.
Qui a écrit ça?
Je ne sais pas, dans Comic Vine, il y a ton nom qui est associé à ça. J'ai trouvé ça très fort. Je me suis dit que quelqu'un avait décidé de te
Alors,
faire une blague.
Oui. Je vais donc faire ce que tout bon politicien ferait. Je vais nier en bloc les allégations.
D'accord. Donc
je ne suis absolument pas associé à ces projets-là. Dark Tower, mais pourquoi?
Je ne sais pas.
Je sais pas, j'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai même fait des.
Parce qu'à la rigueur, tu peux.
Elle n'est pas crédité, hein. J'ai fait du lettrage parfois qui n'était pas crédité, j'ai fait de l'editing sur certains albums, mais.
On va te faire confiance, parce qu'à la rigueur, renier Michelle Obama, Yerwan, feu mal force, mais okay. Dark Tower, non, quand même.
Alors sur Dark Tower, je peux rien dire, à part que bon, Richard Isanov est un copain, mais c'est tout.
Voilà, donc c'était le truc qui m'a bien fait rire. Et donc, tu continues donc en tant que scénariste,
oui.
Et là, en t'éditant toi-même, donc avec ton nouveau projet qui est Atlantic BD, qui sort en même temps que ta sortie de Comic Box. Tu es parti de Comic Box pour Atlantic BD ?
Oui. En fait, mon départ de Comic Box était un peu... ça faisait plusieurs mois que j'y réfléchissais. Il fallait trouver le bon moment pour que l'équipe soit aussi prête. Et puis faire en sorte que ça se déroule bien, qu'on ait trouvé les connexions, parce que bon, c'est, si tu veux, bon, comme je faisais l'essentiel des interviews moi-même, il fallait trouver un relais pour que les interviews continuent d'être bien et faites. Et on a trouvé un correspondant aux États-Unis maintenant qui le fait pour nous. La sortie de Comic Box, elle a été programmée. Maintenant, l'année dernière, Moïse Kissous, qui est le patron des éditions Jungle, avec qui j'avais fait un autre album qui s'appelle Catchy Rose, était très curieux parce qu'il connaissait rien du tout à la BD américaine. Il était très curieux de savoir comment ça marchait. Donc il m'avait missionné pour une mission de conseil pour essayer de lui expliquer un peu comment ça marche, qui fait quoi, les forces en présence, etc. Et l'été dernier, on est allés à San Diego tous les deux et en discutant, il me dit, pour une raison que j'ignore, c'était peut-être de l'acte manqué, je ne lui avais jamais dit que j'avais écrit Spider-Man.
D'accord.
Et là, il arrive et on m'en parle. Et il découvre sur place, donc à San Diego l'été dernier, que je suis aussi l'auteur de Spider-Man. Et il n'en avait aucune idée. Et il me dit, mais t'as rien dans tes cartons? T'as pas des projets? Je dis, écoute, si, j'ai plein de trucs, mais j'ai pas eu le temps encore de me pencher sur la question de ce que je voulais en faire. Il m'a dit, envoie-les-moi. Donc on en parle, je lui envoie, etc. Et à la rentrée, il me dit, écoute... j'aimerais beaucoup monter un projet autour de la BD de genre. Je veux que ce soit toi qui le pilote. Et on va utiliser un de tes projets, en l'occurrence Black Box, comme colonne vertébrale pour développer cette ligne. Et quand quelqu'un vient te voir en te demandant, faisant ce genre de proposition, c'est le genre de truc que tu n'as pas envie de refuser.
Oui.
Voilà. Donc, ça a été, ma décision a été rapidement prise. Et je ne me voyais pas faire juger parti. Voilà, je ne suis pas du tout de ce genre-là. Je trouve que j'ai une certaine idée de ce métier. Je pense que quand tu deviens auteur et que ça devient ton activité principale, tu ne peux pas être le journaliste.
Oui, d'ailleurs, c'était marrant parce que Spider-Man Noir, on en a assez peu parlé en fin de compte dans le Comic Box.
C'était effectivement... et ça a été un crève-cœur. Hein.
Oui, parce que c'était facile de faire une interview de toi-même.
Voilà, ou de Dave, ou de Carmenet. Non, on ne l'a pas fait. On a été extrêmement discret. On pourra toujours dire que c'est de la fausse modestie. Mais non, c'est de la vraie modestie. C'est parce que, je veux dire, ça aurait été trop facile. On est le seul média sur la BD américaine en France, le média imprimé. Je ne parle pas des sites internet. On est le seul média imprimé qui existe. Voilà, et je pense que les gens auraient hurlé au scandale, hein, et ils auraient eu raison.
Oui.
Et j'aurais été le premier à gueuler si j'avais vu ça chez quelqu'un d'autre. Donc, forcément, ça a été quatre lignes dans le guide de lecture et point. Mais effectivement, c'est un déchirement.
Et Kathleen qui annonçait que c'était bien toi.
Comment ?
Qui annonçait que c'était collaborateur.
Oui,
histoire d'être franc et de ne pas le cacher. Quoi.
J'ai pas encore trouvé d'homonyme. Hein.
Oui.
Il y en aura peut-être, hein, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, c'était bien moi. Mais c'est vrai que à l'époque, on n'a rien fait. Et pour la première ministère, on n'a rien fait. Pour la deuxième ministère, on n'a rien fait. Donc voilà, il fallait mettre un peu fin et choisir, mettre fin au suspense et choisir quelle casquette je voulais avoir. Et cette casquette-là, j'ai préféré que ce soit auteur de bande dessinée et éditeur de bande dessinée plutôt que rédacteur en chef de Comic Box, qui était quelque chose que je maîtrisais depuis assez longtemps.
Pourquoi lancer un nouvel éditeur maintenant ? Je veux dire, on parle beaucoup de la crise du marché de la BD, que le marché est saturé. Faut quand même oser se dire, tiens, je vais lancer un nouvel éditeur. Parce que j'imagine que tu ne te dis pas, tiens, je vais lancer un éditeur pour que ça se casse la gueule.
Non, alors on se dit pas ça. Et surtout, Moïse Kissou ne se serait jamais dit ça. C'est quelqu'un de raisonnable. Il a son actif d'être un des plus jeunes éditeurs qui existent sur la place... sur le marché, et à l'évidence, un des plus gros succès de ces dernières années, Jungle est une maison d'édition qui a explosé, et qui par la diversité de ses publications et par le travail qu'il fait, a prouvé qu'ils avaient leur place.
Oui, enfin Jungle, c'est vrai que c'est surtout un succès commercial plus que critique en général.
Justement, mais ce qui n'enlève rien, si tu veux, à ce qu'aujourd'hui on essaie de faire avec Atlantique. Dans la galaxie Moïse Kissous, il y a trois maisons d'édition. Il y a Jungle, qui est une coédition avec Casterman, qui est entre Moïse Kissous et Casterman. Il y a Stenkiss, qui fait des romans graphiques. Et il y a maintenant Atlantique. Voilà. Atlantique, qui va être uniquement dans la BD de genre.
Ouais.
Le pari, c'est d'essayer d'avoir une stratégie modeste à petits pas. On va vraiment jouer les artisans. On va pas arriver en disant, écoutez, on est les plus forts, on est les meilleurs. On va vous éclater la gueule avec nos séries. Et vous verrez, Atlantique va être en haut de l'affiche. Non. On va arriver. On va dire simplement, on va sortir ce qu'on aime. On va aller chercher des projets qui ont du sens. On va sortir que 12 ou 13 ou 14 maximum albums par an. Ça veut dire que chaque album va être important à nos yeux. Et c'est ça un peu l'histoire d'Atlantique. C'est de se faire plaisir et en même temps d'avoir une relation très particulière avec le lecteur. L'avantage de partir d'une feuille blanche, c'est de ne pas avoir le poids que pourrait avoir un autre éditeur. On a une structure extrêmement légère. Tout l'argent va dans les bouquins. La communication est directe. Je donne mon numéro de portable au représentant de la distribution. Les gens peuvent me parler directement sur le site atlantique-bd.fr. Ça marche comme un peu un réseau social, c'est-à-dire qu'on peut créer un profil et parler avec moi, échanger, savoir ce qui va se passer dans les bouquins, donner son avis. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Nous, on veut vraiment avoir on a une démarche d'artisan. Je ne vais pas dire de commerçant de quartier, parce que c'est pas le cas, mais on joue la carte de la proximité avec le lecteur, avec le réseau, avec l'éditeur, et également on a une dimension internationale qui est très forte, parce que dans le dispositif Atlantique, c'est pas un éditeur dont l'ambition est de reprendre du contenu qui a été fait ailleurs. C'est un éditeur qui a pour ambition de construire peu à peu son propre catalogue avec ses propres créations. Et c'est en ça qu'on va se démarquer du reste. Hein.
Alors là, c'était quoi les difficultés principales pour se lancer?
La première difficulté, c'était de se lancer.
Ouais. Mais il se passe déjà combien de temps entre le moment où on se dit on va le faire et le moment où on sort le premier album?
Un an.
Un an.
Un an, puisque les albums vont sortir le 26 août. Et on a commencé à travailler sérieusement en septembre 2010.
Ouais.
Donc, on a pris le temps. On voulait savoir ce qu'on voulait faire, comment on voulait approcher les artistes, quel allait être le poids de la dimension internationale chez nous. Et la dimension internationale est très forte, puisqu'on vise des coproductions avec des éditeurs étrangers, et pas seulement américains, hein, bien sûr. Atlantique va essayer de développer sa propre philosophie de création des albums.
D'accord. Donc tu m'as engueulé quand on a pris rendez-vous parce que j'avais parlé de nouvel éditeur de comics.
Ah.
J'ai vu que tu l'as fait là pendant sur quelqu'un qui m'en dédicace en disant non, fais pas des comics. Pourtant il y a quand même une dimension pour le moment en tout cas très américaine. Je veux dire, ouais. La BD que tu scénarises toi, c'est un dessinateur américain.
Oui.
Time Bomb et Morning Glory, ouais. C'est des licences américaines.
Ouais. Alors, je vais développer ma théorie. Après, on partage ou on partage pas. Hein. Je respecte. Mais voilà ma théorie. Si tu prends Spider-Man Noir, qui est un bon exemple, aucun des créateurs n'est américain. Et le bouquin sort chez Marvel. Très bien. Quand Marvel et Soleil ont fait un accord, il n'y avait aucun auteur américain.
Oui,
c'était des bouquins Soleil. Ils sont sortis chez Marvel. Un américain, il dit pas c'est Soleil. Il ne connaît pas Soleil. Sky Doll, pour lui, c'est Marvel. Donc, je pense qu'à l'heure où on est aujourd'hui sur le marché, avec la mondialisation, avec la globalisation, comme diraient les Américains, l'origine du produit ou le classement de la BD par origine géographique est non seulement un non-sens, mais une absurdité. Et je me bats depuis longtemps, alors ça a été le cas avec Comic Box, contre les chapelles, je me bats contre la segmentarisation par typologie. Je veux dire, moi j'assimile ça à de la préférence nationale, hein. C'est aussi horrible que ça. Dire que y a la bande dessinée, y a les mangas, il y a les comics. C'est juste n'importe quoi. Voilà, c'est juste n'importe quoi parce que, jusqu'à preuve du contraire, les mangas, les comics, c'est de la BD.
Non,
tant que ça a des cases et des bulles, c'est de la BD. Donc, tous les autres pays du monde n'ont qu'un seul mot pour définir l'art séquentiel.
Même en Italie, il me semblait qu'ils faisaient bien la différence manga, fumetto.
Ils disent fumetti, mais. Mais si tu leur dis Fumetti en parlant de Spider-Man, ça les choque pas. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais c'est aussi peut-être parce qu'ils ont une culture de la BD de genre
en
kiosque.
Ici, si tu dis comics en parlant d'Astérix, tout le monde va te regarder avec des grands yeux.
Oui.
Alors que non. Alors que c'est Astérix, c'est des comics.
Non, mais je suis d'accord. D'ailleurs, j'avais le débat il n'y a pas longtemps là-dessus.
Clairement, à partir de là, c'est un message que nous, on a fait passer sur le réseau de distribution. Et j'irai débattre avec quiconque de ça dans toutes les librairies de France et de Navarre ou internationales. Et ça ne me fait absolument pas peur. Et au contraire, je trouve que aujourd'hui, on est dans un monde où tu as des créateurs qui viennent de partout. Je veux dire, quand tu as des créateurs argentins, ça fait des années que tu as des créateurs argentins, espagnols, philippins, qui viennent travailler sur le marché français, on se pose pas la question d'où ils viennent. On s'en moque.
Surtout quand les Argentins sont plus américains que...
Je veux dire, Olivier Coipel, qui est quand même qui a eu longtemps la BD numéro 1 aux États-Unis avec Thor, avec Siege, etc. Ok, les gens savent qu'il est français, mais ça fait pas de différence. Ça fait aucune différence. C'est un dessinateur de bande dessinée.
Mais c'est vrai que les gens vont avoir tendance à dire « Ah, vous êtes un Français qui fait du comics ».
Alors, bon, déjà, je ne dis pas du comics, mais des comics, oui. Parce que comics est un pluriel. Je le dis à chaque fois.
Oui, c'est vrai.
Tu ne feras pas attention. Mais cela étant, au-delà de la rhétorique qui fait sourire, c'est vrai que c'est un débat de fond. Le débat de fond, c'est la bande dessinée, c'est un monde. C'est un monde et il y a une unicité dans ce monde. Il n'y a pas de frontières. Voilà, c'est un monde sans frontières. Les créateurs sont extrêmement ouverts. Les labels sont extrêmement ouverts. Pourquoi est-ce que le réseau, pourquoi est-ce que dans la tête du public, il y aurait des séparations? Parce que ça fait plus propre dans les rayonnages?
Non, je suis assez d'accord.
Je veux dire, dans le cinéma, on se pose pas la question. On dit pas, il y a le cinéma américain, il y a le cinéma asiatique, non. C'est un polar, une comédie.
Le cinéma français, quand même, un genre.
Attends, tu te lèves pas le matin en disant, tiens, oui. Je vais regarder le programme, je vais aller voir un film américain. Non, tu dis, je vais aller voir une comédie, ou je vais aller voir un film d'action, ou je vais aller voir. Et c'est tout. Alors pourquoi est-ce que ça marche dans la littérature? Pourquoi est-ce que ça marche dans le cinéma? Pourquoi ça marche dans le théâtre? Pourquoi ça marche pas dans la BD?
Ok. Tu peux nous présenter les séries que tu vas sortir? Les trois séries qui sortent le 26 août?
Alors je peux présenter les séries de la première vague. Je pourrais aussi présenter les séries de la deuxième vague.
Ouais.
On y serait encore jusqu'à demain. Donc dans les séries de la première vague, donc on va commencer par le plus simple. Time Bomb. Time Bomb est une série qui nous vient de chez Radical. Et Radical est un éditeur de BD qui fonctionne un peu comme Atlantic, mais à l'envers. C'est-à-dire que quand ils se sont lancés il y a quelques années, eux aussi voulaient faire différent. Eux aussi voulaient se démarquer par un format, par une manière de présenter. C'était les seuls qui faisaient au départ que des BD peintes.
Oui.
Et sur des formats qui étaient toujours 48, 56, 64 pages. Dos carré, et donc jamais les petits leaflets souples dos piqué de 32 pages qui sont le classique.
Ils visaient les librairies.
Voilà, exactement. Ils visaient tout de suite les librairies. Et ça nous a plu. Et j'ai découvert Time Bomb parce que je suis un grand fan de Paul Gulacy. Et je connais Jimmy Pagnotti depuis de nombreuses années. On a eu l'occasion de se rencontrer, j'ai toujours suivi son travail. C'est même une des premières personnes que j'ai rencontrées aux États-Unis lors de mon premier voyage en tant que comic box. C'était en novembre 1998 et on avait été Lise et moi chez Marvel. Et on avait été super bien reçus par Joe Quesada et Jimmy Palmiotti, qui à l'époque venaient de s'installer dans Marvel Knights. Marvel Knights venait de commencer, donc ils ont commencé en même temps que nous, d'une certaine manière. Et ça crée une espèce de complicité un peu rigolote.
C'est parce que Quesada est parti que tu t'en vas aussi, en fait.
Oui. Non, hélas. Donc on a plus ou moins gardé le contact avec Jimmy. C'est toujours avec plaisir que j'ai de ses nouvelles. Et donc voilà, il s'est mué d'encreur à scénariste de talent. Et l'idée de Time Bomb était juste délicieuse. C'est-à-dire une espèce de gang de mercenaires qui ont tous des fortes têtes et des grandes gueules. C'est un peu les 12 salopards, mais sauf qu'ils sont 4. Ils doivent empêcher le déclenchement d'une bombe nucléaire inventée par les nazis et qui s'est malencontreusement déclenchée. Et donc ils doivent remonter le temps de 24 heures pour essayer d'empêcher que la bombe soit déclenchée et ne ravage complètement l'Europe. Et au lieu d'arriver 24 heures avant, ils arrivent 60 ans avant, en 1944. Forcément, ils se disent « Ok, on va quand même faire la mission, on va quand même désactiver la bombe. Mais puisqu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire de ce pauvre Adolphe? Est-ce qu'on le pend? Est-ce qu'on le tue? Et qu'est-ce qu'on va faire ?» Et il va leur arriver donc de nombreuses aventures en chemin. C'est un vrai thriller d'espionnage. C'est une vraie série d'actions. Il y a de l'anticipation, il y a une trame fantastique, mais en même temps, c'est une série d'actions. Il y a des dialogues qui sont juste épatants. Et donc, c'est une série qui est très attachante, et qui va être en 3 volumes, 3 albums de 64 pages, qui sortiront à raison de 1 tous les 3 mois, tous les 6 mois.
Ok. Ensuite, il y a la grosse licence qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est Morning Glory Academy. Ouais.
Alors, Morning Glory Academy, Morning Glories en
anglais.
Nous, on a traduit par Morning Glory Academy parce que ça nous paraissait plus simple. Et puis, ça respectait totalement l'œuvre originale. Morning Glory Academy est précédée par un très très gros buzz. Ils en vendent des pelletés aux États-Unis. Je crois que au premier trimestre 2011, le graphic novel de Morning Glory s'est écoulé à 40 000 exemplaires. Donc c'est juste énorme. Donc c'est une série qui marche excessivement bien, qui est un des hits. C'est la deuxième ou troisième meilleure vente d'Image Comics après Walking Dead.
Oui.
Donc c'est alors évidemment Walking Dead est très au-dessus, bien sûr, mais ça en dit long sur le potentiel de cette série, qui est un peu à la frontière entre Le Prisonnier, Buffy contre les vampires et un drame pour ados, quoi.
J'en sais assez peu de cette série parce que tout le monde en gros a passé son temps à dire oh là là, ce qui se passe, faut pas en parler, mais c'est génial.
Alors, ce qui est certain, c'est que si on en dévoile trop, ça va gâcher le plaisir. Disons que dans Morning Glory Academy, la trame de base est qu'il y a 6 étudiants qui sont tous en situation d'échec pour des raisons différentes et qui se retrouvent dans un pensionnat à la dure, la Morning Glory Academy, qui est un des meilleurs pensionnats des États-Unis. Et ce pensionnat a des méthodes expéditives, brutales, et en plus, il s'y trame des choses vraiment bizarres au sous-sol. Et ces étudiants ont la particularité de découvrir qu'ils sont tous nés le même jour.
D'accord.
Mais qu'ils ne s'étaient jamais vus, qu'ils ne se connaissent pas, etc. Et il va leur arriver un certain nombre d'aventures. Ils vont essayer de s'échapper, bien sûr, ils vont essayer de comprendre. Il y a des clans qui vont se former. C'est une série qui est passionnante. Quand on commence... Je dirais que quand on lit une BD, il y a toujours une clé d'entrée. Parfois c'est le scénario, parfois c'est le dessin, parfois c'est les deux. Sur Morning Glory, le scénario captive dès les premières pages et ensuite on se laisse convaincre par le dessin. Le dessin est moins accessible que sur certaines séries, mais plus on le voit et plus on se sent à l'aise avec.
Je suis un fan de Sandman, donc la qualité du dessin
donc, voilà.
ne me retient pas en général. Et enfin,
Black Box, alors,
dont tu parleras bien, je pense.
Comment ?
Dont tu parleras bien, je pense.
J'espère que je parlerai bien de Black Box, qui est donc une série que j'écris, et qui a été le catalyseur, puisque c'est Black Box qui a permis la création d'Atlantique. Donc, c'est ce que les Américains appelleraient une flagship. C'est une série porte-drapeau.
D'accord.
Black Box, en fait, c'est l'histoire d'un archiviste du mobilier national américain qui s'appelle Ulysse Troy. Et ce garçon, il découvre, bien malgré lui, un jour, une boîte à musique très très particulière qui parle toute seule. Et cette boîte à musique est en fait un cadeau fait par le général Lafayette à son ami George Washington en 1797. Sauf que cette boîte à musique ne fait pas que diffuser de la musique, ce qui serait très bien. Elle enregistre également toutes les conversations. Et elle a enregistré toutes les conversations dans le bureau ovale de la Maison Blanche pendant 200 ans.
D'accord.
Donc, sauf que personne ne le savait jusqu'à ce que Ulysse Troy s'en rende compte.
C'est là que tes cours d'histoire contemporaine rentrent en action.
C'est là que l'histoire des États-Unis commence à servir. Et évidemment, il va leur arriver beaucoup d'aventures. Ils vont partir dans beaucoup de directions. Qu'est-ce que c'est que cette black box ? Comment est-ce qu'un appareil aussi ancien peut enregistrer aussi longtemps ? D'où elle vient ? Qui l'a faite ? Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? il s'acoquine avec un ingénieur du son un peu fou, un peu geek, et une journaliste politique aux dents très très longues. Et cette espèce de Scooby Gang va essayer de résoudre tous les mystères des présidences américaines, tout ce que l'histoire n'a pas retenu.
D'accord. Chaque tome, c'est un arc, en gros.
Chaque tome est une arche narrative, absolument.
Ouais.
La particularité, c'est que chaque album de 72 pages se termine. C'est-à-dire que je dirais que, en tant que lecteur, j'aurais aimé qu'on me serve ça.
D'accord.
Si tu achètes le tome 1 de Black Box et que tu es content, tu es satisfait, tu vas avoir envie d'acheter le tome 2. Mais si tu lis le tome 2, tu n'auras pas forcément besoin d'avoir lu le tome 1. Parce que, comme disait Stan Lee, un grand exemple en tant que qu'éditeur et scénariste, chaque BD, chaque comic book peut être le premier de quelqu'un. C'est d'ailleurs pour ça, si tu regardes, que chez Marvel, ils répètent le nom des personnages toutes les 5 pages.
Oui.
Parce qu'au cas où tu as oublié ce qui s'est passé 5 pages avant, on te rappelle qui est Diablo ou qui est Wolverine. Voilà, c'est... Ça fait partie de la Marvel Way. Moi, j'ai été éduqué avec Marvel Way, quoi. Donc, il m'est apparu logique que dans un monde comme aujourd'hui, où les supports de diffusion, les gens vont pas lire forcément Black Box de la même manière qu'ils le lisaient il y a 20 ans. Tu vois, ils lisaient une BD il y a 20 ans. Il y a 20 ans, tu pouvais te permettre de faire un album de 48 pages en 2 volumes avec un album tous les 2 ans. Aujourd'hui, c'est plus possible. Les gens qui vont lire Black Box sur tablette, ou qui vont le lire sur leur téléphone portable, ou qui vont le lire sur Internet parce qu'ils l'ont acheté, c'est des gens qui voudront avoir un confort et une histoire qui se termine. Ils vont commencer à la page 1, finir à la page 72 et que ce soit terminé. C'est ça qu'on va prendre en compte. Donc c'est une série courte, 72 pages, voilà, par album, mais le concept est tellement ouvert qu'il peut y avoir 25 albums de Black Box. Tant qu'il y aura le succès, tant qu'il y aura, j'espère, bien sûr, je continuerai à écrire Black Box. Voilà.
Au niveau du format, donc vous avez choisi un format entre le format comics et le format, on va dire, européen.
Ouais.
Pourquoi ce choix-là ?
Pour plusieurs raisons. Le format européen a cette particularité que... Alors, on va faire un peu de mathématiques. Que son homothétie, c'est-à-dire son rapport... hauteur-largeur, longueur-largeur ou hauteur-largeur, est différent de celui de tous les autres pays qui font de la bande dessinée. Les Japonais ont un format qui est le 13-18.
Ouais.
Les Américains ont un format qui est le 17x26. C'est la même homothétie. Quand on réduit ou qu'on agrandit l'un et l'autre, le même rapport est conservé. En France, c'est pas le même. 24-32, 20-28, 21-28... 22-32, il y a un peu beaucoup de choses qui existent, mais il n'y a pas de format unique et il n'y a pas de règles. Mais surtout, pour exporter sa bande dessinée dans d'autres pays, c'est compliqué parce que précisément on peut pas mettre Astérix au format manga, c'est pas possible. Et si on le mettait au format américain, il faudrait le retailler.
Oui.
Donc ce serait pas pratique. Et d'ailleurs, quand Soleil a fait son travail d'export vers Marvel, ils ont eu un gros boulot d'adaptation pour que ça tienne dans le format américain. Nous, on a anticipé ce problème en utilisant un format plus grand que le format américain, mais avec la même homothétie. Ce qui permet, en le réduisant un poil, d'être publié aux États-Unis, d'être publié plus grand, d'être publié plus petit. Tous les fichiers ont une résolution suffisante pour qu'on puisse en faire des A3 si on veut. On laisse à nos partenaires, ceux qui viendront publier Black Box et les autres séries originales qu'on va créer, on laisse le soin de pouvoir choisir le format dans lequel ils vont publier nos séries, mais en ayant le format le plus commun dans le monde entier. Donc voilà. Et sur le marché français, on a choisi le 19x28 parce que précisément on voulait se démarquer du format entre guillemets américain et que on ne se voyait pas faire plus grand. Donc on a choisi un format intermédiaire, c'est une manière de nous distinguer sans en envoyant aussi aux libraires le message selon lequel on va quand même rentrer dans une catégorie qui est proche de celle qu'ils connaissent. Donc voilà.
au niveau des, justement, là, c'est la question qui je pense qui va être problématique. Au niveau du coût à la page, en gros, hein, je vois le, je crois un Morning Glory, Glory Academy,
ouais,
qui est du comics. On a une habitude
qui est
d'avoir
du, qui est des
du comics,
des comics,
voilà, okay, des comics, des, du comic.
Ouais.
De la bande dessinée américaine,
ouais,
On a l'habitude d'avoir comment, des gros volumes qui vont contenir 4 épisodes, ouais, format souple et pas très cher. Là, ouais, on est quand même sur un format où il y a 3 épisodes américains, c'est ça ?
Alors, en l'occurrence, Morning Glory Academy, c'est un peu spécial parce que le scénariste étant un plaisantin, il fait des épisodes qui n'ont pas tous la même longueur. Donc, ah ouais. Par exemple, le premier fait 36, le deuxième fait 24 ou 26. Puis ça change à chaque fois, voilà. Donc dans le premier volume qui fait 72 pages, il y a 72 pages, sur les 72 pages, il y a 70 pages de BD. Et on s'est battu pour caser nos pages de crédit. Il y a 70 pages de BD, et ces 70 pages de BD, donc pas de perte, ça ne fait que 2 épisodes.
T'as pas justement une peur que ça refroidisse un peu le public?
Non. Je ferai remarquer une chose, c'est que si on prend par exemple les albums de chez... Delcourt.
Oui.
Personne ne fait procès à Delcourt parce qu'ils font des albums à 13, 14 ou 15 euros. Okay, bon, ils le font. C'est des albums qui font généralement 100 pages. 100 pages pour 15 euros, nous on fait 72 pages pour 12,95. La couverture est cartonnée, on joue la carte de la qualité intérieure, on aura du beau papier, on aura une belle couverture cartonnée, un vernis mat avec un pelliculage sélectif. Plutôt l'inverse, un pelliculage mat avec un vernis sélectif, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Donc, on fait pas de la BD de supermarché, on fait pas de la couverture souple. Il y a effectivement un marché pour ça. Maintenant, c'est un choix. Nous, on a une certaine idée de ce métier et on pense que le lecteur de bande dessinée classique, donc, on voit au-delà de la sphère... qui lit de la BD américaine traditionnellement, eux, ils sont pas du tout déstabilisés. C'est-à-dire, la première réaction que le distributeur nous a dit quand on lui a présenté les albums, c'est vous avez un super rapport qualité-prix. Parce que vu le format qu'on a, qui est plus grand, que les albums Panini par exemple, ou,
oui,
ou Delcourt, vu le format qu'on a, vu la qualité en carton, en papier, etc. qu'on a, et la pagination, si tu mets ça en regard d'un album franco-belge classique, on a un rapport qualité-prix canon. Parce que qu'est-ce que c'est ? D'habitude, c'est 48 pages pour 12,50.
Mmh.
Nous, on fait 72 pour 12,95. Donc, ce débat-là, je veux bien l'entendre, je veux bien en discuter, mais on a de vrais arguments. On ne peut pas comparer les torchons et les serviettes, c'est pas possible. Donc, effectivement... ce que Panini fait avec des bouquins à 11-12 euros avec 100 ou 112 pages parfois, ils arrivent à faire ça sur des couvertures souples, etc. On n'est pas du tout dans le même, on n'est pas dans le tout dans le même produit. On a un produit qui est un peu plus quali, qui est différent. Voilà.
Oui, puisque pour de la BD européenne, enfin format à l'européenne, c'est pas cher. Pour du comique, c'est... Maintenant, je suis obligé de réfléchir. Tu vois.
Ah oui,
ça y est, ah, bravo. Pour du comique, c'est vrai que ça peut un peu perturber. Mais ouais, c'est vraiment entre les deux. Puis on le voit aussi au format, quoi.
Voilà. Je veux dire, après, c'est la, je pense que quand les gens verront les albums, c'est un peu difficile de discuter comme ça,
oui,
en vide, mais quand les gens verront les albums et qui verront le rapport entre ce qu'ils ont entre les mains. En France, on est un pays où le rapport au livre est très particulier. Et les gens ont besoin de toucher les livres, c'est marrant, hein.
Oui.
C'est culturel chez nous, hein. Le livre, c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont besoin d'aller dans les magasins, de découvrir les ouvrages, pour se rendre compte de s'ils ont envie vraiment de les prendre. Je pense que quand les gens verront les livres, il n'y aura plus, de débat.
Oui, ok. Au niveau de la traduction... Vous faites ça en interne ou...
On fait ça en interne.
En interne, d'accord. Vous avez déjà les équipes.
Absolument.
Donc, c'est des traducteurs qu'on a déjà vus sur d'autres BD ou...
J'en traduis beaucoup moi-même.
Ouais.
Et on a quelques traducteurs qui sont des traducteurs de mon équipe. Hein, parce que, je veux dire, j'ai embarqué Full FX avec.
D'accord. Voilà. va y avoir dans les albums du bonus, comme peut le faire Milady par exemple, où ils en mettent des paquets dans tous les sens?
Alors ça fait longtemps que j'ai pas vu les albums de chez Milady, mais on va essayer. Dans Time Bomb par exemple, il y aura un peu de bonus, pas forcément dans le premier album, mais dans le deuxième on a des choses de prévues. Dans Black Box bien sûr il y aura du bonus. Il y aura des behind the scenes.
Oh.
où on va publier des choses. Mais c'est vrai que dans Morning Glory, par exemple, on n'a pas la place.
Oui, c'est clair. Salaud de scénariste.
Voilà. Ils prennent. Eux, ils sont. Voilà. Ils en mettent plein la vue. Mais c'est vrai que dans les autres, on va essayer de mettre des bonus, bien sûr.
Ok. Et maintenant. Ça, c'est la première vague. Tu as parlé d'une deuxième vague. Oui. Quels sont les projets à venir? Est-ce que tu peux nous en parler?
Bon, donc les trois premiers sortent le 26 août. Sachant que, évidemment, ceux-là reviendront au mois de février. Voilà. Au mois de février, on verra Morning Glory 2, Black Box 2. Ça aussi, je tiens à dire que c'est quand même un gros challenge. Parce que Black Box, qui est donc une création originale, il y aura quand même un album tous les 6 mois.
Ce qui est pas mal.
Ce qui est une performance.
Oui. Hein, 72 pages tous les 6 mois, c'est...
72 pages tous les 6 mois, je sais pas si ça existe beaucoup sur le marché français, peut-être, hein, mais en dehors des mangas, je sais pas si ça existe.
En changeant de dessinateur, ça se fait, mais c'est tout. Hein, en ayant plusieurs dessinateurs.
Non, moi j'en ai qu'un.
Voilà.
Voilà, il s'appelle Tom Lyle, je le salue. Et donc ça, c'est un peu la performance. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que le monde a changé et que les gens ne veulent plus attendre 2 ans. Les gens, ils sont devenus très impatients. Et s'ils aiment quelque chose, ils veulent le revoir très vite. Mmh. C'est pour ça qu'à la télé, les séries sont diffusées par 2 ou 3 épisodes.
Oui.
Voilà. Alors, ils flinguent des saisons en 3 semaines.
C'est un peu dommage, mais bon.
C'est un peu dommage, mais en même temps, ils donnent leur dose aux gens. Donc, on tient compte de ça. On tient compte de l'évolution du lectorat et de l'évolution des goûts. Et donc, on donne un album tous les 6 mois. Pour ce qui est de d'octobre, donc le 6 octobre, il y a 2 autres albums qui sortent, 2 mini-séries, Reste, qui est une mini-série dont le concept a été créé par Milo Ventimiglia, qui est la star de Heroes, et qui est écrite par Mark Powers, qui est un ancien éditeur de Marvel, qui a pas mal de talent. Et le dessin est assuré par un artiste solide, qui s'appelle Sean McManus. Et c'est une série qui est intéressante parce qu'elle pose un problème de société, c'est qu'est-ce qui se passerait si on inventait une pilule pour abolir le sommeil.
D'accord.
Et il y a une dimension thriller économique dans le monde de la pharmacie avec des grands groupes. Puis il y a cette histoire de cet homme qui s'appelle John Barrett qui est à la dérive et qui se cherche aussi et qui va à moitié devenir dingue avec cette histoire. C'est une histoire qui est intéressante. Et on a également Mystery Society, qui est une pépite qu'on a déterrée, qui est une œuvre assez inclassable de Steve Niles. Alors Steve Niles est très connu du public parce qu'il a créé une série qui s'appelle 30 jours de nuit,
ouais,
qui a formidablement bien marché chez Delcourt, et dont ils ont tiré 2 films, je crois.
Ouais.
Steve Niles et Ashley Wood ont créé cette série.
Ah oui. Pardon. Excuse-moi, je viens de faire Ashley Wood.
Ils ont créé cette série. Ashley Wood a fait les designs de personnages et ensuite le dessin a été assuré par une jeune dessinatrice canadienne qui s'appelle Fiona Staples, qui est bourrée de talent. Et tous les trois, donc, ils ont créé cette espèce de projet qui défie toute logique. Ou une agence du détective un peu bracassée. Des deux détectives, Nick et Anastasia, qui ont une agence qui s'appelle la Mystery Society, qui essaient un peu d'imposer envers et contre tous. Ils ont des problèmes de couple, mais en même temps, ils sont dans un monde où c'est Mulder et Scully, quoi. Tu vois,
oui.
C'est un peu X-Files mélangé avec Claire de Lune.
D'accord, oui.
Avec des personnages complètement rocambolesques comme un robot avec le cerveau de Jules Verne ou le crâne de Edgar Allan Poe qui leur donne des informations sur comment ils doivent avancer dans leur enquête. Enfin, et tout ça avec la zone 51, etc. C'est une espèce de grand patchwork des mythes et légendes urbaines. C'est assez fun. C'est à l'opposé de tout ce que Steven Niles écrit, mais c'est très rafraîchissant.
D'accord. Ok. Donc ça sera la deuxième vague de ce qui va arriver.
Et il y aura donc le projet qui sortira en fin du mois d'octobre, toute fin du mois d'octobre, qui est un projet totalement exceptionnel et qui nous amène à créer notre première collection qui va s'appeler Atlantic Prestige. Et dans Atlantic Prestige, on sort un one shot au format, aux dimensions exceptionnelles, au caractère exceptionnel. Tout est énorme dans ce truc-là. C'est un ouvrage qui est Superman contre Mohamed Ali, qui est un singleton. C'est quelque chose de complètement unique. Il a été publié pour la première fois en 1978 par DC, dessiné par Neil Adams, écrit par Denny O'Neill. Donc c'est pas des petits créateurs de comics. Le scénario est complètement fou, mais l'œuvre, c'est une œuvre baroque qui est inclassable. Et on va la sortir pour la première fois en français depuis 32 ans, dans une édition prestige, avec des bonus inédits dans le monde entier, une édition qui va être limitée à 5000 exemplaires, par un de plus, et qui sera disponible, qui sera un merveilleux cadeau pour les fêtes de fin d'année, pour tous les gens qui aiment les comics, bien sûr, mais qui aiment également Mohamed Ali, la boxe, tous les symboles que ça peut véhiculer, Superman, l'idée de se dépasser, d'avoir deux grands champions, etc. Donc voilà, et on est très très fiers d'avoir réussi à obtenir les droits de cet album-là. Ça a été une âpre négociation. Il y avait beaucoup de concurrence et on est vraiment flatté que DC Comics ait accepté de nous faire confiance pour sortir cet album qui est juste hors norme.
Ok, j'ai hâte de voir ça. Alors on va attaquer la deuxième partie de l'émission. Et donc on va commencer à s'intéresser un peu à ce que tu lis, à ce que tu aimes. Déjà, on va commencer par demander, est-ce que d'après toi, il y a un intégral que tu recommandes à tout le monde, qu'il faudrait avoir, une BD, quelque chose de fini qu'il faudrait avoir?
C'est vrai que c'est une question difficile, parce qu'il pourrait y avoir plein de choses. Après, ça dépend. Est-ce que la question, c'est qu'est-ce que j'offrirais? Qu'est-ce que je garderais pour moi? L'intégrale que j'aimerais avoir à la maison, je ne suis pas forcément un exemple représentatif, parce que je ne vais pas aller forcément chercher les choses les plus connues. La solution de facilité, ce serait de dire, voilà, l'intégrale Dark Knight, c'est bien.
Oui.
Ce serait la solution de facilité. Je ne suis pas dans la solution de facilité. je peux le dire, j'ai une passion pour les caractères, pour les personnages obscurs.
Oui.
Le premier chose que je me suis acheté quand j'ai eu les moyens, c'est de m'acheter des intégrales de séries dont tout le monde se foutait, comme Iron Fist des années 70-80, Nova, Spider-Woman, Luke Cage.
Toujours dans du comic.
Oui, non, je vais te dire, j'ai toujours des comics, parce que j'ai pas vraiment eu une histoire affective avec la BD française. J'en ai lu comme tout le monde, enfin j'ai lu Tintin, j'ai lu Astérix, on va dire les classiques, mais je me suis jamais passionné pour les trucs d'aventure ou les trucs d'heroic fantasy, tu vois. Pour moi l'heroic fantasy c'est Conan. Oui, ça me fait plaisir de lire Conan, j'adore.
Battle Chaser, Telos.
Pour ce que c'était des bons divertissements, si tu veux.
Oui.
Telos, j'adorais Mike Duringo, hein, je le connaissais bien, je l'adorais, et il fait partie des gens qui manquent à ce monde depuis qu'il a disparu. Mais cela étant, j'ai jamais été un grand fan de Telos. Comment te dire, voilà, j'ai grandi avec, c'est un peu Madeleine, quoi. J'ai grandi avec ces personnages, j'ai envie de dire de série B ou de série C, quoi. Iron Fist, Nova. Là, je vais même te dire, j'ai une collection de statuettes Bowen à la maison. Une toute petite collection. Hein.
Mais je n'achète. Parce qu'il y en a un paquet.
Ouais, parce que ça coûte très cher. Mais dans ces mini-bustes, je n'en achète pas beaucoup, mais ce que j'achète, c'est que des personnages qui sont un peu comme ma Madeleine, quoi. Captain Britain des années 70, Nova, Guardian, enfin Vindicator, pardon. Ça dépend quelle période. Tu vois, donc c'est, je suis vraiment intéressé par les personnages de second ordre. Voilà, c'est, donc l'intégrale, c'est plutôt l'intégrale de ces trucs-là vers lequel je vais, quoi. Je veux dire, je suis hyper fan de l'intégrale d'Iron Fist. Voilà, Iron Fist est un de mes personnages préférés.
D'accord. Il y a une période plus particulière sur Iron Fist ?
J'aime tout. Voilà, autant les premiers me font rire, parce que bon, Larry Hama au dessin, c'était très drôle. Ensuite, il y a John Byrne.
Larry Hama dessiné ?
Larry Hama au dessin, et ouais. Et ouais, revisité classique.
Oui, c'est très très vieux pour moi.
C'est très très vieux. Ensuite, John Byrne, bien sûr, et avec Chris Claremont, ils ont fait un run absolument magnifique. Et les plus récents, Matt Fraction, Ed Brubaker, David Aja.
Ah, David Aja,
c'est vraiment très très bien.
Oui, je les ai achetés, ceux-là, j'avais bien aimé. Une série qui pour toi, une BD qui pour toi n'a pas eu le succès mérité.
Bah, j'aurais encore envie de te dire Iron Fist, parce que c'est vrai que ils ont fini par l'arrêter, alors que ça démarrait formidablement, mais il y en a tellement. Il y en a tellement, qui n'ont pas eu le succès mérité. Il y a une mini-série que j'avais adorée chez Wildstorm, ça devait être dans les années 2000, et qui s'appelait Ball and Chain.
Ouais.
Elle n'était pas hyper bien dessinée, mais j'adorais cette histoire avec un couple de super-héros qui était au bord du divorce, qui réglait leurs problèmes de couple sur la voie publique pendant qu'ils arrêtaient les criminels. C'est peut-être mon plaisir coupable, je vais sauter une question là.
Ouais.
mais c'est vrai que c'est le genre de choses. Voilà, y aurait beaucoup de séries à citer qui n'ont pas eu le succès mérité. Et j'aime des choses diverses, tu vois. Par exemple, j'adorais. Je vais pas dévoiler le plaisir coupable, en fait. J'attends. J'attends la question suivante. Mais il y en a vraiment beaucoup. Hein. Comment te dire, il y en a vraiment beaucoup.
Une BD à l'inverse que tu trouves surévaluée.
Que je trouve surévaluée.
Ouais.
Alors il y en a quelques-unes. 300.
Ouais. Alors 300, bon, on va pas faire le résumé, je pense que tout le monde connaît avec le film.
300 de Frank Miller, c'est un des rares exemples où j'ai l'impression que le film était moins chiant que la BD.
Ouais.
Parce que la BD était vraiment chiante. Hein. Avec son format panoramique en plus, c'était compliqué à mettre dans ses réglages. mais bon, ça, c'était pas forcément une excuse. C'est juste que je me suis ennuyé, quoi. Je me suis ennuyé. Dark Knight Strikes Back aussi, le deuxième Dark Knight, DK2, mais quelle horreur. En règle générale, je pense que Frank Miller est un fumiste. Enfin, il est devenu un fumiste, ça a été un grand artiste. Il est devenu un fumiste et c'est juste navrant, quoi.
Mmh. Oui, d'autant que tu as dû, après, quand on a apprécié ce qu'il avait fait avant.
J'ai adoré Daredevil comme beaucoup de gens. Ah, j'ai beaucoup aimé Dark Knight Returns ou Elektra Assassin ou Man Without Fear. Clairement, il y a quelque chose qui s'est cassé, quoi.
Alors, une BD qui maintenant est introuvable et que tu aimerais bien qu'on réédite, voire que tu réédites toi-même.
Que j'aimerais bien qu'on réédite. Qu'est-ce que j'aimerais bien qu'on réédite ? Je crois que tout a été. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été éditées hein, ou rééditées récemment. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des choses qui sont. Enfin, il y en a sans doute, hein, bien sûr, mais elles ne me viennent pas forcément à l'esprit. Non. J'ai le sentiment qu'on peut trouver beaucoup de BD. Hein. Ça me reviendra peut-être. Hein. Je te dirai ça si d'ici à la fin de l'interview, ouais. Ça me revient.
Quelque chose qu'il faudrait qu'on traduise et qui n'est pas traduit. Qui n'aurait pas forcément une chance commerciale ni quoi que ce soit, mais qu'il faudrait qu'on traduise en France. Ah, c'est le blanc.
Écoute, là encore, bon, moi qui suis épris de BD américaine, comme tu l'as compris, il y a de plus en plus de choses qui sont traduites. Il y a de plus en plus de choses qui y a presque tout en fait maintenant.
Oui.
Il y a tellement d'éditeurs qui se battent pour traduire de la BD américaine que pratiquement tout est traduit. Si je regarde les catalogues, le catalogue de DC ou le catalogue de Marvel, bien sûr, Marvel, il y a quasiment tout est traduit. D'ici, quasiment tout est traduit. Boom, pareil. Image, pareil.
Un vieux truc. Parce que ils vont plutôt chercher dans les choses récentes.
Dans les choses récentes, tout est traduit. Hein.
Ouais, voilà, mais dans les plus vieux, non, il n'y a pas de.
dans les plus vieux. Il faudra vraiment que je mène une recherche approfondie.
C'est pas un Hulk de 1099
je pense que ce qui mériterait d'être traduit, mais je crois que ça va être fait bientôt, c'est Crimson de Humberto Ramos.
Ouais.
Ça mériterait d'être découvert. Non pas que c'était une série qui avait une certaine fulgurance, elle avait ses faiblesses, elle s'est pas terminée comme on aurait espéré qu'elle se termine, mais c'était une série qui, quand elle est sortie, avait une promesse intéressante.
C'est surtout une série qui, comparée à ses collègues de série, était une série.
Oui, elle paraissait.
Elle paraissait.
Absolument.
Parce qu'en face, il y avait donc, c'était Battle Chaser et
Battle
Steampunk.
Chaser et non, et Danger Girl.
Danger Girl, oui.
Steampunk, et là, ça a été au bout. Hein.
Oui, Steampunk a été au bout.
C'était tellement incompréhensible que...
J'adore Bacalo, mais c'était du Bacalo illisible.
Chris Bachalo, c'est quelqu'un qui est un expérimental.
Ouais.
Il adore faire des expériences. Parfois ça fonctionne,
ce qu'il avait merveilleusement. Fait, ce qu'il avait fait sur Génération X par exemple.
Génération X, mais aussi ce qu'il a même fait sur Spider-Man il y a 2 ans.
J'ai pas lu ces trucs.
Tout était blanc, ça se passait dans la neige, enfin c'était vraiment magnifique. Et ce qu'il avait fait là, ça n'allait pas quoi.
Allez, ton artiste, que ce soit dessinateur, coloriste ou encreur préféré. Une BD de lui, une BD.
Alors, mon préféré, toute catégorie, c'est John Romita Jr.
Ouais.
Je pense que John Romita Jr. pourrait dessiner le plan de métro, je l'achète.
Ouais.
Il a une élégance et sa mise en scène est tellement limpide. Je veux dire, c'est juste au-dessus de tout quoi. John Romita Jr. En termes de dessin pur, c'est forcément pas le meilleur. C'est quelqu'un qui va vite, qui a un trait qui est très brut.
Ouais.
Il n'est pas hyper raffiné, mais c'est d'une efficacité incroyable. Et quand tu sors d'une BD de John Romita Jr., t'as envie de lire la suite. Et j'aime ces artistes qui ont un sens de la mise en scène inné. Mais je veux dire, il y en a d'autres comme ça que j'adore. Ed McGuinness, par exemple. Tu citais Bachalo. Bachalo est expérimental, mais
il y a des éclairs en train de tomber.
Oui. L'apocalypse est en route.
Il y a du vent à vue en scène.
Chris Bachalo est comme ça, mais en même temps, voilà, lui, au niveau du dessin, c'est juste gigantesque ce qu'il est capable de produire. Après, il y a des artistes que j'aime, il y a d'autres artistes que j'aime.
Donc si tu veux choisir une BD de Romita, Junior,
ce serait Spider-Man.
Spider-Man ?
Ah oui.
Quelle période ? Parce qu'il est venu plusieurs fois,
oui,
sur Spider-Man.
Il est venu plusieurs fois, absolument. Écoute... J'ai un souvenir absolument formidable de Peter Parker au Spider-Man 75, qui est la dernière apparition du clone. Tout ce qu'il a été capable de faire depuis est tout aussi bien. Je veux dire, les Spider-Man qu'il a fait avec Straczynski,
oui,
sont d'une élégance rare.
Ils sont passés dans Marvel, les grandes sagas, là, il n'y a pas longtemps d'ailleurs.
Voilà, c'est juste phénoménal. Voilà, je n'ai pas de mots assez forts pour décrire mon amour de John Romita Jr.
Oui, j'ai lu donc celui qui sortait dans Marvel, les grandes sagas, il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Et la double page, c'était de Spider-Man c'était un numéro centenaire, mais je ne sais plus lequel.
Ouais.
Il y a une double page avec tous les ennemis et compagnie, mais qui
exactement.
Est d'une beauté
phénoménale. Mais
puis il y a un coloriste qui va bien avec, en plus.
Alors, ce qui est drôle, c'est que j'aime John Romita Jr. même quand il est mauvais. C'est-à-dire que... ou même quand il n'est pas lui-même. Que j'ai un souvenir, ça aussi ça doit être dû à mon grand âge, mais j'ai un souvenir assez vibrant et très nostalgique des Iron Man qu'il a fait avec Bob Layton, même si on sait très bien que son style était totalement masqué par celui de Layton qui ancrait derrière et qui redessinait la moitié des cases. Mais j'ai énormément aimé cet arc d'Iron Man avec David Michelinie au scénario, John Romita Jr. au dessin et Bob Layton à l'ancrage. C'était juste gigantesque. Ils ont fait de ce personnage quelque chose de totalement... C'était très moderne pour ce que c'était. Aujourd'hui, c'était un peu daté, bien sûr, mais à l'époque, c'était très, très moderne, dans les années 80. J'aime même Romita Jr. quand il est ancré par Dan Green sur les X-Men. Et pourtant, Dieu sait que c'était horrible.
Je crois que la question un dessinateur avec qui tu as envie de travailler a été répondue. Pourtant, tu disais que tu aimais les personnages, les histoires sombres, etc.
Ouais.
C'est pas forcément l'artiste le plus adapté à ça.
Ou pas. Je veux dire, tu sais, regarde un dessinateur comme Mignola, ou ils sont finalement pas très très éloignés. Romita fait aussi un travail sur les ombres et les lumières. Ces pages pourraient très bien vivre en noir et blanc. Donc j'aime aussi.
D'accord. Ton scénariste préféré?
Oh my god. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de scénaristes dont j'apprécie énormément le travail. Je pense que celui dont en ce moment j'apprécie le plus le travail, c'est Ed Brubaker.
Ed Brubaker, et sur quelle série?
J'ai envie de dire tout. Bon, pas tout, mais j'ai été un des rares à être assez insensible à Gotham Central.
J'ai adoré.
Mais oui, je veux dire, j'ai aimé Criminal, j'ai adoré Criminal. J'ai adoré Captain America. Je trouve que le travail qu'il a fait sur Captain America est juste gigantesque.
Oui.
Il a quand même réussi à faire tenir cette série sans le personnage principal pendant presque un an. Et ensuite avec un substitut du personnage pendant un an. Ou un an et demi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un talent fou.
Parle-moi un peu de Criminal justement, parce que c'est une que j'ai pas lue de Brubaker. C'est Sean Phillips au dessin, c'est ça?
C'est Sean Phillips au dessin. Ouais. Criminal, c'est une série. C'est pas une série qui se raconte.
Ouais.
Clairement. C'est une série qui se vit.
Voilà. Le pitch de départ.
C'est une histoire de gangster avec des losers qui font qui essaient de faire des coups foireux, mais l'originalité de Criminal, elle réside dans ses personnages. C'est des personnages jetables.
D'accord.
D'un arc à l'autre, c'est pas les mêmes. C'est comme une torche qu'on se passerait. Le personnage, c'est la ville, c'est le contexte. Il y a beaucoup de choses dans Criminal. C'est très riche. Il y a des pieds nickelés, les héros sont des pieds nickelés, ils essaient de faire des coups. On est proche de ce que Tarantino pourrait faire, ou les frères Cohen, ou on est plutôt ça. C'est des cinéastes que j'apprécie moi personnellement aussi, et donc retrouver ce type de situation un peu rocambolesque ou des dialogues de l'ironie du second degré dans ces scripts là de Brubaker, c'est quelque chose qui me parle. Brubaker, donc oui, voilà, mais j'aime aussi ce qu'il a fait sur Iron Fist, bien sûr, j'y reviens. voilà. Et sur les autres, j'ai beaucoup aimé Brian Bendis.
Ouais.
Et je l'ai beaucoup brûlé aussi, comme on brûle ses idoles. Brian Bendis est quelqu'un qui a un talent fou, mais parfois il devient la caricature de lui-même. Il en fait trop. Bon. Pareil, j'ai beaucoup aimé Mark Millar aussi. Parce qu'il a été capable de faire beaucoup de choses. J'aime Warren Ellis, comme beaucoup aiment Warren Ellis, mais je n'aime pas tout chez Warren Ellis, parce que pareil, c'est un personnage et parfois il est capable de devenir la parodie de ce qu'il est, du ouais. personnage qu'il a créé. C'est un peu Gainsbourg et Gainsbourg avec Warren Ellis. Il y a plusieurs Warren Ellis dans le Warren Ellis. J'adore le Warren Ellis de Planetary. J'adore le Warren Ellis de Authority 1 à 12.
Oui.
Voilà. C'est ce Warren Ellis que j'aime bien. J'aime moins. Si j'ai un peu rigolé sur Strange Kisses avec Gravel, le flic vaudou qui est un peu déjanté, bien que le dessin n'était pas franchement à la hauteur. Mais au-delà de ça, voilà, y a plein de choses que j'aime pas chez Warren Ellis. Mais c'est ces auteurs que j'aime bien, oui.
Ok.
Entre autres.
Alors, une BD qui mériterait un dessinateur à la hauteur de son scénario.
C'est cruel, ça.
Ouais.
C'est cruel comme question, parce que le dessin, c'est la première chose qu'on voit.
Oui.
Et donc il faut passer le truc. Alors je vais me faire beaucoup d'ennemis si, quand je vais dire ça, hein, mais j'ai envie de dire Vif en Vendetta.
Ouais.
Parce que j'ai jeté un œil il n'y a pas très longtemps. Ça a terriblement vieilli.
Parce que je pense que
c'était déjà vieux au moment où c'est sorti.
Ça vient pas des couleurs.
Je pense que ça vient des couleurs, de la mise en page. C'est des cases petites, difficiles à identifier. Franchement, je me demande. Enfin, David Lloyd n'est pas un mauvais artiste, bien sûr, hein, loin de là. Mais je pense que ça aurait mérité un autre artiste.
Parce que moi, je sais que c'est toujours un truc qui est problématique, surtout chez les Américains, où il y a trois personnes qui passent sur le...
Oui, mais qu'est-ce que tu dirais des Anglais ? Je veux dire, chez les Anglais, prendre 2000 AD, par exemple, t'as un dessinateur différent par semaine quand tu lis la même histoire.
Oui.
C'est encore pire.
Mais ce que je veux dire, c'est au niveau du... Je te disais, je suis fan de Sandman. Je revois ce qu'il peut y avoir sur les premiers Sandman. Ouais. C'était... Comment il s'appelle ? Que j'aime beaucoup d'ailleurs.
Delano ?
Non, pas au dessin, sur les premiers, le co-créateur de Sandman au dessin.
Le nom m'échappe.
Ouais, bah, moi aussi. Enfin bon, qui a un style qui est sympa, qui est dans les noirs, qui est Kelly Jones.
Exact.
Kelly Jones. Qui a un style très sombre, qui était très très bien sur du Batman d'ailleurs. Mais il y avait un ancrage ou une couleur qui faisait que maintenant qu'on retombe dessus, on fait mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Sans parler des premiers dessins de Bacalo sur Sandman aussi, qui sont assez terribles. Mais il y a le contexte qui doit jouer beaucoup aussi, je trouve.
Tu sais pas, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans les produits que tu vois, l'influence de l'éditeur, le temps qu'il a eu pour le faire. Tu vois, les lecteurs ont tendance à essayer d'envoyer le bébé avec l'eau du bain. Je me rappelle avoir eu cette discussion un jour avec Duncan Rouleau. Et la première fois que je l'ai vu, je lui ai dit, tu sais, j'ai lu tes Alpha Flight, c'est de la merde. Il m'a dit, je suis d'accord avec toi, c'est de la merde. Mais quand on me donne 22 pages à faire en 10 jours,
je peux pas faire mieux.
Je peux pas faire mieux. Voilà. Mmh. Et effectivement, quand tu regardes les projets qu'il a fait après, les créas qu'il a fait après, Duncan Rouleau est un magnifique artiste à qui on n'a pas donné sa chance.
J'ai vu pas mal de trucs de lui.
Mais pareil, je veux dire, je connais bien Mark Brooks. Mark Brooks, il a autant de fans que de détracteurs.
Moi, je l'aimais pas sur. Qu'est-ce que j'avais lu ? Comment s'appelait cette série chez Image ? Backslash. Il avait fait Backslash, je crois.
Non,
c'est pas lui ?
Non, il a travaillé chez Udon et ensuite il a travaillé chez Marvel direct.
D'accord.
Mais il avait fait Aranya par exemple, il a fait New X-Men, enfin il a fait des trucs avec un style qui n'était pas vraiment le sien et extrêmement rapidement. Mais quand tu vois la qualité de ce qu'il est capable de produire en illustration, en art commission, ou en print ou en truc, en plus c'est un magnifique coloriste, tu te dis que ce type-là c'est un type à qui on n'a pas laissé sa chance de se développer et aujourd'hui il fait Uncanny X-Force et c'est. C'est bien plus proche de ce qu'il est de ce qu'il est que qu'avant, tu vois. Donc voilà.
Un scénariste avec qui tu aimerais travailler ?
Oh la vache, il y en a beaucoup. Un scénariste avec qui j'aimerais collaborer ?
Ouais.
Il y en a énormément. Geoff Johns.
Ouais. Tu veux faire du Green Lantern ?
Non, du tout. Plutôt du Hawkman, tu vois. C'est plutôt mon truc, ça. J'ai adoré Hawkman. Brad Meltzer.
Ouais.
Je pense que j'adorerais travailler avec Brad Meltzer. J'ai eu la chance de l'interviewer une ou deux fois. Et il est. Son intelligence est juste incroyable.
Brad Meltzer, il a fait quoi déjà comme...
Il a fait Identity Crisis.
Ouais.
Il a fait la Justice League. Il a fait Green Arrow.
Pareil, c'est un scénariste qui vient pas de la BD à la base. C'est un.
C'est un romancier à la base.
Un romancier.
Un romancier de grand talent, du reste. Quel autre ? Daniel Way, je pense.
Ouais.
Parce que humainement, ça se passe. Enfin, je m'entends bien avec lui. Hein.
C'est plus humainement que sur les méthodes de travail.
Tu sais, à la base, c'est quand même quand tu vas écrire un scénario avec quelqu'un, il vaut mieux que tu t'entendes bien humainement. Oui. Ça a été ça avec Dave, avec Dave Hein. Ça a été ça. Il faut que ça fonctionne humainement. Il faut que tu partages un certain nombre de valeurs. Il faut que tu partages la même idée du métier et de ce que tu as envie de faire du personnage pour y arriver. Mais oui, c'est des gens avec qui j'aurais envie de travailler. Avec quelle autre personne j'aurais envie de travailler ? Avec Frank Shaw.
Ouais.
Ça arrivera peut-être un jour, qui sait.
Plus dessinateur dans ce cas-là.
Hein ?
Plus en tant que dessinateur, donc Frank Shaw. Oui,
ou en tant que co-créateur, parce qu'il est scénariste aussi.
Oui, hein, il a fait les parties Midos, il est scénariste.
Je pense que c'est la personne qui a l'humour le plus incroyable que je connaisse.
Oui, je garde. J'étais devenu
il est complètement déjanté, il est à moitié fou, et je l'adore. Voilà,
Liberty Midos, c'était génial. Voilà. J'ai toujours le souvenir de cette télé qui tombait sur.
Je ne sais pas d'où il sort ses rêves, les plus fous. Il y en a plein en fait. Il y a plein de gens. J'aime les Anglais. Voilà. J'aime beaucoup les Anglais, comme Dave, comme d'autres hein, que j'ai eu la chance de rencontrer. Avant tout, je veux dire, faut jamais oublier que écrire de la BD, c'est
c'est un métier, mais c'est également une aventure humaine. Et c'est ce que je disais, voilà, il faut s'entendre. Il faut partager des choses pour avoir envie de mettre dans la corbeille un peu de soi. C'est une expérience, hein, l'écriture. Hein, c'est...
Oui, oui. Tu aimes le fait de travailler en collaboration,
oui,
en scénario ?
Énormément. Je veux dire, j'ai presque envie de dire que je me sens tout seul sur Black Box. Et que ça me fait un peu paniquer parce que j'aime le travail d'équipe. C'est pas pour rien que j'ai toujours tout fait en équipe. Dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours tout fait en équipe. Et je préfère le travail d'équipe. Pas parce que j'ai envie de me cacher derrière des collaborateurs, plutôt parce que je pense que quand on est tout seul, on s'appauvrit. Et avoir un échange, ça permet d'être encore meilleur, ça permet de se dépasser, c'est un vrai défi. Et donc j'aime le travail en équipe. Donc travailler avec un co-scénariste, j'ai un projet là pour les États-Unis dont je peux pas encore parler parce qu'il est beaucoup trop tôt avec un co-scénariste américain. Et honnêtement, c'est juste merveilleux, quoi. Les premières discussions autour du concept ont été phénoménales.
Ouais, vous apportez des idées l'un à l'autre.
Exactement.
Ça rebondit non-stop.
Ça rebondit non-stop et c'est ça que j'aime. Voilà. Parce que là, j'ai l'impression de progresser, j'ai l'impression d'apprendre des choses, j'ai l'impression de m'améliorer en tant que scénariste.
Ok. Ta dernière découverte en BD ? Alors, pas que tu vas publier, parce que...
Bah oui, c'est de la triche, hein.
C'est de la triche.
Un truc qui ne soit pas dans le viseur d'Atlantique, c'est ça ?
Ouais.
Ou chez les autres ?
Ou qu'il est, mais tu peux pas le dire encore.
Ah. Écoute, je suis un peu biaisé, hein.
Ouais.
Je suis un peu biaisé là, je dois dire. Parce que bon, quand je regarde les choses maintenant, je les regarde avec un autre œil. Je préfère pas en parler maintenant.
D'accord. Donc ta dernière découverte BD est un truc que tu as dans le collimateur.
Oui.
Ta dernière déception BD, là, on est sûr que tu l'as pas dans le collimateur.
Je pense que ma dernière déception BD, c'est Marvel.
En général.
Ouais.
Ouais, ça fait beaucoup de titres.
Ça fait beaucoup de titres, oui, mais je vais faire mon vieux con. Je trouve que aujourd'hui, on est dans un monde chez Marvel où les éditeurs ont... Il y a eu plusieurs phases dans le jeu d'influence dans la BD aux États-Unis. Il y a eu la période des dessinateurs stars,
ouais,
dans les années 90.
Qui a amené l'image.
Ensuite, il y a eu la période des scénaristes stars dans les années 2000. Et là, on est dans la période des éditeurs stars. C'est-à-dire des éditeurs qui disent à tout le monde ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et de quelle manière.
Oui, on voit les scénaristes qui deviennent éditeurs.
Et c'est les éditeurs qui contrôlent tout.
Ouais.
Les scénaristes ont le pouvoir sur tout, ils contrôlent tout. Ils ont le pouvoir sur les éditeurs, ils ont le pouvoir sur les dessinateurs. Ils font en sorte qu'ils ne se rencontrent pas, comme ça ils gardent vraiment l'information. C'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et je trouve que... ça ne fait qu'appauvrir les projets. Alors, on fait des remakes de ce qu'on a fait il y a 20 ans parce que ça a bien marché. C'est le triomphe du marketing facile. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça la BD pour moi. La BD pour moi, c'est un cocktail. C'est un cocktail qui est assez subtil et pas toujours facile à obtenir, hein, c'est clair. Entre le marketing, le créatif, les envies et le public. Il ne faut jamais oublier que quand on crée pour un public. Je veux dire, sans public, il n'y a pas de BD.
Oui.
Donc, on est bien obligé et au contraire. Je veux dire, le scénariste ou le dessinateur qui dit qu'il ne fait pas ce métier pour être reconnu ou pour viser le public est un menteur.
Oui.
Donc, non, le public est capital et c'est lui qu'il faut chercher à toucher.
D'accord. Ton plaisir honteux en BD, ta BD est honteuse, celle que tu
sais
pas.
Alors elle est pas si honteuse, ouais, que ça, mais c'est Street Fighter.
Street Fighter.
Ouais.
C'est le deuxième à me citer Street Fighter.
Hein ?
On m'a déjà cité Street Fighter en plaisir honteux.
Ouais, non, mais Street Fighter. Écoute, voilà, j'aime les BD de Street Fighter que j'ai eu l'occasion de traduire en français quand je travaillais pour Albin Michel il y a 8 ans.
Ouais.
7 ans. On faisait une collection pour Albin Michel qui s'appelait Game Over. J'ai eu l'occasion de traduire ça. Et après, j'ai développé des relations d'amitié avec Eric Co, le patron de Udon Studio.
Ouais.
Ils sont bourrés de talent.
c'est des coloristes de génie, c'est des dessinateurs qui partent dans toutes les directions, ils mélangent toutes les influences, ils n'ont pas de chapelle eux aussi, voilà, on s'entend bien pour ça parce que ils sont pas ils sont ni trop américains, ni trop européens, ni trop japonais, ils sont un peu de tout. Voilà.
D'accord. Mais dans Udon, ouais, il y a des trucs bien sympas. C'est vrai qu'en général, Street Fighter, on ne s'attend pas à grand chose niveau scénario. Quoi.
Non, c'est vrai, mais c'est pour ça que c'est un plaisir coupable. Hein,
ouais,
n'est-ce pas ? Voilà.
Tu m'as dit que tu lisais pas de BD online, de webcomics.
De
webcomics.
J'ai pas le temps.
Pas le temps ?
Non. Non, j'ai pas le temps. Je travaille 7 jours sur 7. Ouais. J'ai aussi 3 enfants.
Ouais.
Donc ça m'occupe pas mal.
D'ailleurs, au niveau du online, il y a une politique qui est prévue pour Atlantic BD au niveau de la vente.
Il y a une politique qui est en développement. Je pense, sans faire de scoop démentiel, que Black Box finira sur le service Isneo,
ouais, qui est le plus développé actuellement.
C'est à peu près couru d'avance, hein, même si c'est quelque chose qui est dans les... Voilà, c'est pas encore officiel, mais bon, il y a des chances, il y a de fortes chances pour que ça y aille. Pour les autres, c'est simple, pour les BD sous licence, nous n'avons pas les droits.
Oui.
Donc, les créations online, les créations atlantiques, oui, il y aura une politique online. Maintenant, pour les autres...
Comment ça va se passer d'ailleurs ? Parce que vous avez fait une traduction. Si même l'autre éditeur, il doit vous racheter la traduction, il doit...
C'est, tout ça est en négociation. Voilà, on en parle.
Ok. Justement, sur l'online, toi, tu en penses quoi de la BD sur écran, que ce soit tablette, ordi.
Tu sais, il y a deux trucs. La première fois que j'ai eu un iPad entre les mains, j'ai lu un comic book dès le premier jour, et je me suis dit génial, c'est super. C'est très confortable, la lecture est absolument géniale. Mais il y a un autre truc, c'est ensuite je n'ai jamais été en acheter un autre. Et c'est ça le truc. Je pense que je ne suis pas la bonne clientèle. Je dois être trop attaché au livre, etc. Je comprends qu'il y a un marché pour ça, je comprends qu'il y a une clientèle pour ça. Mais je suis pas représentatif. Je ne suis pas représentatif, je l'admets sans honte. Il faut qu'il y ait l'acte d'achat, voilà.
D'accord, il te faut l'objet, il te faut le... Pourtant, ça permettrait de gagner de la place dans la bibliothèque.
Oui, ça prend de la place, les livres, tu as raison. Mais cela étant, j'achète beaucoup moins qu'à une époque. À une époque, effectivement, j'étais picousé. J'achetais mes BD tout le temps, quoi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sélectif. J'achète des albums quand ils paraissent. J'ai plus forcément trop les moyens, bien sûr. Mais c'est aussi par envie, parce que... J'ai envie d'avoir des histoires complètes, je suis un peu comme tout le monde, quoi. Je suis un lecteur, je suis le lecteur lambda. Voilà. Quand je me transforme en lecteur lambda, je fais attention à ce que j'achète.
Et là, est-ce qu'il y a une BD dont tu aimerais parler, dont on n'a pas parlé, un truc
Écoute, là, l'esprit... Tu veux dire une BD qui n'est pas une BD non plus d'Atlantique, qui n'est
ouais.
pas...
Ouais, je sais, c'est difficile. Oui, parce que j'imagine que tu es tellement dans tes BD,
là,
que tu dis que...
Tu m'interroges, on est à quelques semaines du lancement.
Ouais.
Je suis farci de pages de nos propres albums. Donc forcément, repose-moi la question dans un an.
D'accord. Ok. Tu as dit que tu lisais très très peu de BD, on va dire, franco-belge, pour en parler géographiquement, même si ça ne veut pas dire grand-chose.
Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est clair.
Voilà. Tu ne nous as pas parlé non plus de BD, allez, on va dire, asiatique, pour être... c'est des choses que tu ne lis que très peu, ou qui t'intéressent
Alors,
pas
j'en lis très peu, mais je pense que... J'en ai lu à une époque, bon, comme tout le monde, j'ai un peu lu les classiques. Hein. J'ai lu Dragon Ball, j'ai lu Akira, j'ai lu les classiques quand j'étais... un peu plus jeune. Je pense que la lecture compulsive des mangas, il faut être un peu initié. J'ai fait quelques efforts, j'ai essayé de lire One Piece, ça m'a pas plu. Là encore, je suis pas contre, hein, au contraire, hein, je suis très ouvert à la BD asiatique. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très très fort dans la BD asiatique, c'est le fait qu'ils attachent énormément, que les personnages sont plus importants que l'histoire.
Ouais.
Et pour moi, en tant qu'auteur, c'est quelque chose aussi qui est très important. Les personnages sont plus importants que l'histoire. L'histoire, un éditeur m'a un jour dit, tu peux écrire la même chose que tous les autres. L'important, c'est la manière que tu as de l'écrire. C'est ça qui fera la différence. Et tout est dans la manière, tout est dans le traitement des personnages. C'est les personnages qui font avancer l'histoire et pas l'inverse. Donc, cette dimension-là dans la BD japonaise, j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, j'ai tendance à dire que j'ai pas eu de coup de cœur depuis longtemps. Il y a des choses qui m'ont fait rire. Midori Days m'a beaucoup fait rire. Mais récemment, j'ai pas eu de coup de cœur.
Ok. Alors on en a fini pour les BD. Alors chers auditeurs, vous aurez vu que c'est un format un peu original, hein. On a passé un peu différemment d'habitude, ça a été fait un petit peu à l'improvisation. Mais on va passer aux questions à la con. Alors les questions à la con, c'est une série de questions, je te donne deux mots. T'en choisis un. Ça va très très vite. Tu peux aller plus loin que la réponse de mots si tu veux te justifier, mais t'es pas obligé.
Ouais.
Et nous commençons avec première question à la con. Hergé ou Franquin ?
J'ai pas entendu.
Hergé ou Franquin ?
Franquin.
Soleil ou l'association ?
C'est le grand écart.
Oui, bah, c'est l'intérêt de la question.
Je veux dire Soleil. Je suis plus proche, malgré tout.
Atari ou Amiga ?
Atari. Sans problème.
Ouais. Je crois que pour le moment, c'est l'Atari qui gagne à chaque fois qu'on l'a posé celle-là. Jonah Jameson ou Jenna Jameson ?
Jonah Jameson.
Je savais que tu comprendrais ça, la question. Personne ne l'a comprise.
Ah ouais ?
On a fait une émission où mon collègue de podcast a dit Jenna Jameson en parlant de Jonah Jameson, mais pendant toute l'émission, sans s'en rendre compte.
C'est très drôle.
Oui, oui. Noir et blanc pas cher ou couleur de luxe ?
Là, il y a égalité. Il y a égalité parce que les deux ont leur charme.
D'accord. Bière ou pastis ?
Alors, aucun des deux. Hein. Franchement, non, je suis pas du tout alcool. J'en bois extrêmement rarement. Je suis pas très fan.
Batman ou Superman ?
Ça, c'est cornélien. Superbat ?
Oula, ça nous remonte à...
Écoute, pour moi, c'est l'alpha et l'oméga des super-héros. Je dirais. C'est deux faces d'une même pièce. Ils sont indissociables.
Protoss ou Zerg ?
Pardon ?
Ça te parle pas. Donc c'était Protoss ou Zerg, mais ça doit pas te parler.
Non.
Ok. Parce qu'il y en a quelques-unes comme ça qui vont peut-être pas te parler.
Ah oui. Non, ça me parle pas. C'est quoi ?
C'est des factions dans le jeu StarCraft.
Ok. Alors je suis pas du tout joueur.
D'accord.
Ça explique cela. Hein.
Donc
si t'as des allusions.
Donc si je te dis Xbox ou Wii.
Je joue. Non. Alors. J'ai une Wii, mais je ne l'ai jamais touchée. C'est les enfants qui s'en servent.
Ok. Slip ou caleçon ?
Boxer.
À moteur ou à plume ?
À moteur ou à plume ?
Oui, oui.
Écoute, j'ai encore pas expérimenté les dredons à moteur, mais
d'accord.
Je vais essayer.
Ok. Donald ou Howard the Duck ?
Pardon ?
Donald ou Howard the Duck ?
Oh, Howard the Duck.
Numérique ou traditionnel ?
Les deux l'un après l'autre et pas forcément dans le sens qu'on croit.
Ah. D'abord le numérique et ensuite le traditionnel.
Ah, je te laisse comprendre ce que tu veux.
Je sais pas, moi je pense à Dave McKean qui fait du mélange.
Les deux ont leur place.
Ouais. Blonde ou brune ?
Brune. Tu parlais de la bière bien sûr.
Oh, de ce que tu veux en fait.
Non, je plaisante. Non, brune. Dans toutes les circonstances.
Thé ou café ?
Café.
Blur ou Oasis ?
C'est pas du tout mon genre de musique. Okay. Moi, c'est plutôt le funk. Hein.
Ok. Trondheim ou Larsenet ?
Trondheim ou ?
Larsenet.
C'est vache, ça. Hein.
Ouais, je sais, c'est vache.
C'est très, très vache. Les deux. Hein.
Et chacun pour leur truc. Hein,
mais... Bah oui, parce que tu enfin, c'est difficile. C'est vraiment difficile, c'est une question vache ça.
On en a quelques-unes.
C'est mal.
On arrive à la fin. Toriyama ou Otomo ?
Ah, ils ont aussi. J'aime les deux. J'aime les deux. C'est pas la même magie. C'est vraiment pas la même magie. Toriyama, c'est. Il y a plein de légèreté, il y a beaucoup de millième degré, il y a beaucoup de, c'est très riche. Otomo, c'est profond.
Non, j'aime les deux, j'aime les deux.
One shot ou saga?
Plutôt saga.
Ouais.
Ouais.
T'aimes quand t'as l'impression que la BD ne va jamais s'arrêter et...
Non, j'aime surtout l'idée que quand on aime quelque chose, on a envie d'en voir plus ou en lire plus.
Ok. Donc,
oui. Si la saga est assez riche pour le permettre.
Ouais.
Parfois, tu vas lire une BD et tu sauras que c'est la fin et il faut pas qu'il y en ait d'autres.
Et s'il y en a d'autres, faut pas les acheter.
S'il y en a d'autres, c'est mal.
Genre à la fin de Dark Knight.
Genre Watchmen.
Oui.
Faut pas qu'il y en ait d'autres.
Mais avec Kevin Smith au scénar.
Faut pas commenter les rumeurs.
Oui, mais disons que si j'aime bien Kevin Smith, mais s'il y a quelqu'un que je verrai pas là-dessus, c'est lui.
Non, mais je pense que ça n'a jamais été au programme et que c'était une boutade.
Oui.
Donc, comme beaucoup de choses chez Kevin Smith, que j'aime énormément, hein, comme stand-up comédien, il m'éclate. Hein. J'adore ses spectacles. J'ai des souvenirs. D'être tordu de rire à San Diego quand il faisait ses shows, il restait une heure à répondre aux questions des gens et c'était juste hilarant, quoi. C'était juste hilarant. Voilà.
Ok, bah on en a fini. Merci Fabrice.
Bah écoute, avec plaisir. Hein. Okay. On a passé longtemps ensemble. Hein,
ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver sur le net, avoir des nouvelles, suivre les infos?
Je vais te dire, c'est très facile. Il faut se loguer sur le www.atlantique-bd.fr. Là-dessus, les plus téméraires se créeront un profil. Un peu comme sur Facebook. Et puis, une fois qu'ils ont créé leur profil, ils peuvent discuter avec moi, ils peuvent discuter entre eux, ils peuvent rejoindre des groupes de discussion sur les bouquins, parler de leur vie, voilà.
Il y a une dimension très sociale hein, sur votre site.
Il faut bien que tes auditeurs se rendent compte que Atlantique n'est pas un label comme les autres et qu'il n'y a pas de barrière. C'est comme si on était dans un festival de BD où les gens peuvent venir te voir, peuvent venir voir les auteurs, etc. Tout le monde peut discuter, on est tous là, on est tous accessibles.
Ça va sans doute passer d'ici la diffusion, tu seras à la Comic-Con?
Oui, je serai au Comic-Con.
Au Comic-Con?
Au Comic-Con de San Diego. Hein.
Ah, et Paris?
Je serai à Paris aussi, ouais, mais dans mon cœur, il n'y a qu'un seul Comic-Con.
D'accord. Ok, bah merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés. Donc bah, n'hésitez pas à aller voir ces nouveautés qui sont sorties ou sortiront bientôt. Nous, comme d'habitude, nous sommes sur lavoixdesbulles.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Et à bientôt, au revoir.
Au revoir.